Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma ? Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réu d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
Bon, on va Réu.
De David Fincher et son tueur à gages ultra méthodique nous rappelle qu'être parano et tatillon, ça peut avoir du bon. Ouais, pas sûr du message, mais en tout cas, si vous avez peur de vous rendre sur le web, cet épisode de La Réu est sponsorisé par NordVPN. NordVPN, c'est un service qui vous offre un accès sécurisé et privé à Internet. L'une des fonctionnalités de NordVPN, c'est de chiffrer toute votre activité en ligne et ainsi protéger votre anonymat et vos données personnelles, notamment des fameux hackers gothiques qui en veulent à votre compte en banque.
Ah mais comme Lisbeth Salander dans Millennium ?
Oui, comme Lisbeth Salander dans Millennium. Et avec la protection anti-menace, qui reste active même quand le VPN est éteint, vous pouvez bloquer les téléchargements de fichiers ou de logiciels malveillants, les sites de phishing et les trackers web qui collectent vos données et qui mériteraient une mort douloureuse façon Seven s'ils avaient une forme physique. Et ensuite, bah même pour des fans comme nous de The Social Network, on a fini par oublier notre mot de passe Facebook.
En même temps, qui va encore sur Facebook ?
Et bah même avec NordPass, disponible dans le pack avancé, vous avez accès à un gestionnaire de mots de passe qui vous génère des codes uniques et complexes pour éviter de faire comme Alexandre et d'utiliser I Love David Fincher sur tous vos appareils depuis 2010. Avec le code promo LARÉU ou le lien en description de ce podcast, vous pouvez obtenir 4 mois offerts sur un abonnement d'un ou deux ans jusqu'à la date du 29 novembre 2023. Le logiciel est synchronisable sur jusqu'à 6 appareils en simultané et il y a une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Et maintenant, parlons de David Fincher. Eh bien, bienvenue à cette nouvelle Réu, Alexandre et Judith.
Salut Antoine.
Bonjour Antoine.
Aujourd'hui est un grand jour, surtout pour toi, Alex, puisque ton seigneur est redescendu sur Terre, même s'il a pris la décision d'exprimer sa bonne parole sur Netflix. Et oui, David Fincher est de retour avec The Killer, avec Michael Fassbender, adaptation de la bande dessinée Le Tueur, dans laquelle un tueur à gages méthodique voit sa vie être chamboulée après le ratage d'un de ses contrats. Forcément, bah, c'est l'occasion de revenir sur la carrière prolifique d'un des grands cinéastes américains de son temps et l'un des chouchous d'Alex. Alors, j'ai pas tellement envie qu'on revienne sur la filmo de Fincher film par film, parce que bah, d'autres l'ont très bien fait avant nous. Donc j'ai plutôt envie qu'on explore des lignes directrices sur son cinéma, qui pourraient donner des idées pour de super articles à partir de nos goûts et de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas dans ces différents films. Mais du coup, autant commencer par The Killer, justement. Et bon, Alex, comme tu as déjà fait la critique et la vidéo sur le site Écran Large, moi, j'ai bien envie de demander à Judith ce qu'elle a pensé de The Killer.
Alors Antoine, le problème c'est que voilà, comme
ça commence.
Comme pour beaucoup de films de Fincher, j'ai pas détesté. Je passe un bon moment en voyant le film plutôt, mais je n'ai pas aimé non plus. Voilà, on en discutera, je pense, mais je reste en dehors de beaucoup de films de Fincher et celui-là n'a pas dérogé à la règle. J'espérais qu'il me propose quelque chose de nouveau et ce ne fut pas le cas. Le truc c'est que j'ai l'impression, comme souvent, qu'il me propose rien de nouveau. J'ai l'impression d'avoir vu tous ces éléments ailleurs. Et que Fincher, en fait, me les redigère dans une version qui est... je suis désolée parce qu'Alexandre est en train de faire un malaise, mais... mais il me les redigère, il me les repropose dans une version qui est extrêmement maîtrisée, une version un peu premium de tous ces clichés, on va dire, mais clichés quand même. Donc c'est-à-dire que là, on a quand même une première séquence, moi, qui m'a un petit peu... un petit peu perturbée parce que donc on a ce tueur qui se prépare à tirer sur sa cible à Paris. Bon, après des images de tueurs extrêmement méthodiques qui se préparent derrière une vitre pour atteindre une cible à distance, c'est pareil, on l'a vu dans énormément de thrillers quoi. Et en plus donc là on a cette voix off en fait où ce tueur nous raconte un petit peu toute sa méthode, tout son quotidien, et en nous donnant tout un tas de statistiques d'une voix extrêmement posée. Et vraiment là j'ai eu le sentiment de voir, enfin d'entendre à la fois la voix off d'Amélie Poulain, d'André Dussolier et de voir les plans d'American Psycho, ouais.
Donc, bah, est-ce que c'est pas ça qu'on voulait?
Peut-être, ça aurait pu être un mariage heureux, mais là, du coup, j'étais un peu, j'ai envie de rire, en fait, tout simplement. Et après, un autre aspect qui m'a un petit peu dérangée, au-delà du fait que je trouve que le film déroule un programme qui est facile à prévoir et qui est pas révolutionnaire, il y a un aspect, forcément, l'aspect personnage féminin. Vous allez me dire, mais on s'en fiche, dans The Killer, il n'y en a quasiment pas. Voilà. Il y a quand même le personnage de sa meuf, au gars, qui apparaît deux fois, hein, une fois au début, voilà, je ne vais pas dire. Et en fait, au début, donc, ce qui est un peu déclencheur des péripéties, on va dire, c'est qu'elle, elle est victime de représailles parce que, bah justement, parce que son mari, forcément, trempe dans des affaires louches. Et en fait, elle a juste 10 secondes où on la voit sur un lit d'hôpital et où elle est dans la vénération totale de son mari et dans vraiment... elle lui en veut absolument pas, hein, elle s'est fait trucider la tronche, mais elle est vraiment en mode « Mon chéri, j'ai pas fait exprès, please, je te pardonne tout, t'inquiète, je ne t'en veux pas du tout, je continuerai à te faire ton pot-au-feu et tout. » Et vraiment, enfin... C'est très très étrange cette scène. Et on voit juste qu'elle a l'âge d'être sa fille, hein, et oh. Et oh bah si. Ah si. Et on en reste là. Et c'est vraiment une, enfin c'est la femme dans le frigo classique, quoi, on va dire. Ça m'a énervé. On reviendra un peu sur les questions des personnages féminins parce que je pense que chez Fincher, il y a le pire et le meilleur. Il y a vraiment le pire, mais il y a aussi vraiment le meilleur. Là, on est plutôt du côté du pire. Donc voilà, pour moi un petit peu ramassis de clichés premium, mais clichés.
OK. Et Alex, toi?
Bah moi j'ai bien aimé, évidemment. Enfin je suis pas là pour dire que je suis un vendu à Fincher, même si un peu quand même, mais non, mais en fait je comprends totalement les critiques que tu peux faire sur The Killer parce que je vois très clairement, enfin je pense voir très clairement ce que Fincher a voulu faire d'une certaine manière, parce que pour moi The Killer est vraiment le prototype du film qui a compris ce que devait être un film de streaming, en gros. Donc je suis d'accord avec toi, il y a toujours un problème sur les rôles féminins, il y a beaucoup de problèmes sur les rôles féminins chez Fincher, même si ça dépend des films évidemment, mais sur celui-ci il n'y a pas vraiment de personnage féminin fort, et c'est vrai que sa compagne est, on va dire, un peu expédiée, mais un peu comme la BD, j'ai envie de dire, malheureusement, hein, ça reste une adaptation d'une certaine manière, donc je suis pas spécialement étonné, mais pour moi c'est un film qui, quand tu dis qu'il a pas d'inventivité, il ressort un peu ce qu'on a déjà vu d'un film, d'un thriller sur un tueur à gages, etc. Je suis d'accord sur ce point, c'est-à-dire l'histoire, elle est en effet extrêmement basique. C'est l'avancée d'un point A en passant par un point B, un point C jusqu'à Z. Donc, pas très étonnant en effet sur le déroulé classique du scénario, mais je trouve que le scénario n'est pas classique. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que le film, peu à peu, parle d'un personnage qui se dit, en tout cas, à l'opposé de ce que devrait être la masse, enfin de ce qu'est la masse, en tout cas pour lui, un personnage qui se sent différent, etc., et qui peu à peu, en fait, va basculer, comprendre finalement il est un peu comme les autres, mais je trouve que le film est hyper ambigu là-dessus, et c'est ça que je trouve hyper intéressant. C'est, en fait, c'est un film qui raconte comment un personnage pense au fur et à mesure pouvoir détruire on va dire les grands de ce monde, ou en tout cas le système comme il est conçu, de penser qu'à force, en détruisant, en revenant pour se venger, etc., va pouvoir détruire une forme de système que lui haït tant, par rapport à toutes ces pensées dont tu parles, dans sa voix off, etc., et en fait jusqu'au dernier moment va faire absolument tout l'inverse de ce qu'il devrait faire pour anéantir le système, c'est-à-dire que c'est quand même le seul gars qui veut détruire le système, mais qui détruit les moins puissants, hein. C'est profondément à lâche, hein, ce personnage. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est un personnage qui va tuer un chauffeur de taxi, hein, attention spoiler, hein, mais qui va tuer un chauffeur de taxi qui malheureusement pour lui était un peu complice, mais enfin il a quand même pas fait grand chose,
un peu pauvre. Innocent le pauvre quand même,
il a juste conduit des gens, ensuite il tue son agent, bon d'accord, et son assistante qui a vraiment, elle a rien demandé non plus. Ensuite, il va tuer une brutasse qui, bon, why not, il exécute des gens, bon, il est pas très gentil, mais bon, ça reste quand même un gars un peu lambda, quoi. Il vit comme un connard au milieu de la Floride.
Au moins, il ne tue pas le chien, et ça, c'est important.
Il ne tue pas le chien, c'est vrai.
D'ailleurs, mais ça aussi, très intéressant, un truc que j'ai noté, parce que bon, j'ai déjà vu The Killer deux fois, voire trois fois. voilà. Mais un truc aussi intéressant, c'est que pendant tout le film, si on note, en fait, c'est un personnage qui a peur d'aucun humain, qui, d'une certaine manière, avance et n'a pas peur de se confronter à l'humain, mais parce que ces gens sont déconnectés du réel. Et à partir du moment où les gens sont connectés au réel, qu'est-ce qui est réellement connecté au réel ? Ben en fait, ce qui n'est pas humain, c'est-à-dire humain dans le sens homme, dans le sens femme, homme, mais ce qui est la seule chose qui peut sentir et qui n'est pas omnubilé ou détraqué par tout ce qui est les technologies, etc., ce sont les animaux. Et les seules choses dont il a peur pendant tout le film, hein, c'est un animal à la douane, l'animal du mec de la Floride, et le chien du mec de la Floride, et aussi quand il ramène l'assistante chez son avocat, chez son agent qui est aussi avocat, pour aller récupérer les petites fiches pour savoir qui a voulu l'exécuter, il attend un tout petit peu avant de se garer, parce que quoi ? Il y a un mec qui promène son chien devant la maison. Donc je trouve que ça, c'est intéressant. C'est des tout petits détails qui montrent que Fincher, en fait, il veut te raconter quelque chose d'intriguant sur le rapport aux gens par rapport à la sécurité. C'est-à-dire, les gens ont tellement confiance en la technologie, c'est-à-dire juste leur monde connecté, leur téléphone, mais aussi l'ultra-surveillance, les caméras, tout ça, qu'ils ne font plus attention à ce qui les entoure. En revanche, il faut faire, qu'est-ce qui peut faire vraiment attention à ça ? Les animaux. Mais lui-même se fait avoir, du coup, le tueur à gages, puisque au fur et à mesure, qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'il tue des gens, on va dire, entre guillemets, normaux, mais les seuls, soit qu'il rate dès la première séquence, soit qu'il épargne dans la dernière séquence, ce sont les riches. C'est-à-dire que le système l'a tellement... En fait, le système est tellement plus fort que lui qu'il a réussi à lui-même le faire vriller. C'est-à-dire que le système est capable de faire assimiler à même ceux qui se disent contre le système qu'il ne faut pas exécuter les grands de ce monde pour espérer en faire partie. Mmh. Et je trouve ça vraiment brillant, en fait.
Et il le dit dès le début, finalement, parce qu'il te parle du taux de mortalité dans le monde et lui, en fait, de l'intérêt de faire son métier. Et au final, tu te dirais d'être tueur à gages, a priori, pour des gens puissants, c'est que tu vas vraiment bouleverser une économie, ou si tu exécutes quelqu'un de très très riche qui a une société potentiellement dangereuse, ou du moins qui est censée être dangereuse pour quelqu'un d'autre, c'est que ce qu'il fait va bouleverser une certaine idée de l'ordre social à un moment donné, sauf qu'en fait ça n'est jamais le cas. Et tu comprends d'ailleurs que finalement le mec qui l'a embauché au départ et dont il rate la cible, visiblement on n'y revient jamais vraiment au fait qu'il ait raté la cible, et ça n'a pas l'air d'avoir un impact gigantesque, en fait. Donc moi je trouve ça aussi intéressant, effectivement, que tu restes à ce truc-là et que lui te parle effectivement de cette idée de l'élite à laquelle il voudrait appartenir et à laquelle finalement il n'appartient jamais vraiment, puisqu'en fait il est dans l'hyper-connectivité permanente. Et je trouve que Fincher ça le capte d'une manière qui est assez belle, parce qu'il te décélère le truc dès le départ avec justement cette idée de la scène posé d'un mec qui s'emmerde, qui te parle de l'ennui d'attendre à la Hitchcock, à la fenêtre au surcours, à regarder les gens dans la rue. Mais en même temps, par le côté lancinant de la voix off, de le fait que le film ne s'arrête jamais malgré tout, petit à petit le rythme revient. Et en fait, ce dont il te parle, c'est ça, en fait. C'est que lui, il change de pays en un cut, avec un panneau à chaque fois. On comprend qu'il prend l'avion très régulièrement. Et que sa manière de se déplacer correspond à ça aussi. Et là, je trouve qu'il y a une manière très belle que le film a de l'exprimer. C'est que lui, il te dit c'est plus possible d'être vraiment tueur à gages au 21e siècle, parce que justement, tu es ultra surveillé. Mais en fait, le paradoxe, c'est que malgré ça, pour lui, c'est finalement très simple, parce qu'il suffit d'être méthodique. Les gens regardent pas tout, parce qu'il y a trop finalement d'infos, il y a trop de caméras, il y a trop de choses partout. Et à partir du moment où tu sais comment approcher un problème comme les siens, tu t'en sors toujours, parce qu'il suffit juste de savoir prendre son temps. Et en fait, il a jamais vraiment d'obstacles, et au contraire, la technologie l'aide. Et là, je trouve qu'il y a une idée qui est assez récurrente chez Fincher, mais que je trouve assez passionnante là-dedans, c'est l'emploi des marques qui sont extrêmement présentes dans le film et qui en fait lui servent toujours. C'est-à-dire, il parle de McDo, il parle de Hertz et tout ça pour louer des bagnoles, et puis il loue un truc pour pirater des cartes avec Amazon, avec vraiment le panneau Amazon qui se met à l'image pendant qu'il est sur son téléphone en train de commander le truc. Et moi, c'est là où je trouve le film assez passionnant, parce qu'en fait, t'es effectivement, comme tu le disais, Judith, dans un truc de une narration très classique. Lui évoque beaucoup Don Siegel comme inspiration majeure sur ce film-là, mais un Don Siegel que t'aurais boosté au numérique, en fait. Je trouve ça assez passionnant, sa manière de le présenter. Mais avec derrière un truc génial, pour moi, il te parle vraiment des affres du néolibéralisme et en fait d'un personnage qui croit, un peu comme dans d'autres films de Fincher, et on y reviendra sans doute, croire s'affranchir au système alors que finalement ils sont en plein dedans et ils l'utilisent en fait, ce système-là. Et il y a une forme de cynisme que je trouve assez fascinante parce qu'il te parle justement d'à quel point ce néolibéralisme est un peu puant, mais en fait ça lui sert bien et il en a même besoin. Et en fait, dans sa méthodologie, et c'est un truc qui, pour moi, c'est un peu la ritournelle du film qui, là, m'a vraiment intéressé d'un point de vue thématique, c'est que tout dans The Killer est lié à la question du déchet, du gaspillage. Il utilise constamment des téléphones après un appel qu'il casse tout de suite. Et en fait, ça, il le montre quasiment à chaque fois, en fait, qu'il te casse les téléphones alors que ce n'est pas nécessaire. Il utilise une poubelle pour... Enfin, il utilise littéralement un costume des boueurs et une poubelle pour infiltrer un lieu et récupérer un mec qu'il cache dedans. Et tout ça lui sert, voilà, tout est sur la question du gaspillage permanent.
Alors du coup, là, t'es peut-être en train d'apporter une réponse à un plan qui m'a posé question pendant le film, justement. Parce qu'à un moment donné, on a deux fois la même action. On a sa première fuite, la première fois qu'il se couvre, on va dire, où il jette son casque de moto, il fait nuit, il traverse un pont sur une rivière, il jette son casque de moto, et là, il y a un plan qui m'a beaucoup posé question, du casque à l'intérieur de l'eau qui coule, en fait. Un plan 100% numérique que moi, j'ai pas trouvé très joli, et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on nous montre ça ? Pourquoi est-ce qu'on enchaîne pas ? Enfin, pourquoi est-ce qu'on est obligé de nous montrer ce qui se passe sous l'eau ? Est-ce que ça veut dire quelque chose plus tard dans l'histoire, etc. Et plus tard, il répète la même action. Je ne sais plus du coup si c'est un portable ou un autre objet qu'il jette dans l'eau aussi de nuit. Et là, on recoupe directement sur lui dans la rue et on ne voit pas l'objet couler. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi ? Ça m'a trop énervé. Mais du coup, c'est vrai que peut-être ce premier plan, c'est pour parler de gaspillage. Du coup, ça ne me répond pas sur pourquoi est-ce qu'on n'insiste pas aussi
parce
sur la scène.
Parce qu'il sait que la scène est dégueulasse, c'est pour ça.
Ah bon ?
Non, mais ça doit être... C'est contre les JO 2024, ici, qu'on ne doit pas utiliser la scène pour nager dedans, ça doit être pour ça. Il y a trop de déchets. Non, mais peut-être que tu vois, il y a ce truc-là de te montrer qu'il ne doit sans doute pas être le premier à faire ça. Et que ça te reflète sans doute, avec ce casque qui coule, combien d'autres objets du genre doivent être au fond de la Seine, comme doivent être au fond de moult autres fleuves.
Mais du coup, tu vois, je trouve ça hyper intéressant comme sous-texte, et je trouve ça aussi hyper intéressant parce que la première erreur, la première fois qu'il rate sa cible au début du film, vraiment, on le voit venir longtemps à l'avance parce qu'il y a vraiment ce jeu de perspective où on voit qu'il y a une personne qui passe devant la cible. Au moment où il tire, on se dit, mais comment tu peux faire une erreur aussi stupide ? Ça fait des jours que tu te prépares, comment est-ce que tu peux rater ce coup-là, quoi ? Et du coup, moi, j'avais un petit peu de mal à réconcilier ça. En fait, je trouve ça hyper passionnant, l'idée d'avoir un personnage qui crée inconsciemment sa malchance. En fait, parce qu'il est attiré par cette espèce de vertige de l'échec, tu vois, parce qu'effectivement, il n'a pas vraiment envie de sortir de ce moule, pas vraiment envie de remettre en question, de bousculer l'ordre en place. Mais là, c'est le problème que j'ai avec Fincher. En fait, la théorie, je la trouve passionnante, mais le film ne me le fait pas du tout ressentir. Et là, c'est pour ça que moi, j'ai toujours une distance avec son cinéma, parce que je trouve ça super quand vous en parlez, mais moi, je ne le vois pas, quoi.
Ouais, bah ça, pour le coup, tu vois, moi, ça a été la grande surprise en découvrant le film, parce que non seulement, évidemment, il y a toujours la déception de pas voir le film en salle. Mais moi, du coup, bon, je me le suis mis chez moi sur Netflix le soir, tu vois, dans le noir, je m'étais fait à manger, tout ça. Je me suis mis vraiment dans les conditions, a priori, optimales pour en profiter. Et en fait, non seulement, moi, dès la première séquence, j'ai été assez soufflé par la rythmique, par justement ce côté lancinant du film où je me disais, ok, et limite, j'adore le fait que je sais pas totalement où tu m'emmènes d'un point de vue rythmique. Je trouve ça très cool. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'en grand fan d'ASMR, Michael Fassbender, si tu nous écoutes, par pitié, lance une chaîne d'ASMR en soft-spoken comme ça. Là, moi, tu te fais la voix off comme ça tout le temps, quand tu veux, bro. Mais je trouve vraiment qu'il y a un travail, justement, qui est pour moi celui de Fincher. C'est que ce film-là, dans les mains de n'importe quel autre réalisateur, effectivement, tu vois, je pense que je pourrais te dire oui, c'est un peu bateau, je m'en fous un peu. Et quand bien même il y aurait le sous-texte qu'on a évoqué là, ce qui marche, c'est quand même une question d'ambiance, en fait. C'est vraiment une question de comment Fincher travaille son cadre, comment il travaille sa gestion du numérique, que je trouve plus belle que jamais ici, notamment bon, ces séquences de nuit. On sait que le numérique aide beaucoup pour faire une nuit plus simple à obtenir que si tu tournais en pellicule. Et clairement, là, ça l'aide à avoir à la fois une nuit qui semble naturelle, notamment dans la grosse scène de baston, que je trouve absolument magnifique et très, très bien chorégraphiée. mais qui est toujours lisible malgré l'obscurité ambiante. Et alors surtout, bon, on en a pas mal parlé déjà dans la critique, mais la gestion du son, que je trouve vraiment canon dans son rapport aux écouteurs, comment il les met, comment dès qu'il y a un cut, tu perçois différemment selon là où se positionne la caméra, le son autour de lui. Je trouve que c'est vraiment un truc où t'es vraiment dans sa tête à lui. Et en fait, je pense que ça définit pas mal, moi, ce qui m'intéresse chez Fincher, c'est comment il s'accroche à un personnage, alors que paradoxalement, derrière la froideur dont on l'accuse souvent, en fait, il y a vraiment cette envie de coller à quelqu'un. Et là, c'est juste que bon, bah, tu colles à quelqu'un de lui-même de très froid, en fait.
Moi, justement, ça me fait penser à cette histoire de son. Il y a un aspect qui m'a communiqué davantage de choses que j'ai trouvé intéressant. Moi, c'est son utilisation des chansons. Il en met souvent dans ses films. Et donc là, et notamment, le tueur écoute tout le temps les Smiths, ce qui est pour notre plus grand plaisir. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que justement, il prend des chansons en fait, qui ont un côté très, comment dire, un petit peu lancinant, avec un ton un petit peu lent, un peu mélancolique, avec comment dire, des sons assez diffus. Et en fait, il s'amuse à toujours couper, parce que du coup on entend quand on est du point de vue du tueur et ça coupe quand on change de point de vue, et du coup la chanson est toujours entrecoupée, alors qu'au contraire notre oreille a très très envie d'entendre la fin de la phrase, et il la coupe pile à des endroits complètement contre-intuitifs. Et du coup c'est cet effet au fond, au son pardon, où ça nous met toujours un petit peu à distance de ce qui se passe, ce qui est peut-être mon problème, mais en tout cas qui est toujours en train de nous maintenir en tension en fait par rapport au point de vue. Je suis pas forcément fan du résultat, mais j'ai trouvé en tout cas la démarche vraiment intéressante, quoi.
Ouais, pour le coup, c'est vraiment une volonté de Fincher, parce que c'est ce qu'il a dit à son designer Ryan Kleiss. Donc, il travaille avec depuis Seven, hein, donc ils se connaissent plus que bien. Et c'était vraiment sa volonté de justement travailler sur l'idée de cut, contrairement à, on va dire, à ce qui se fait habituellement dans le cinéma. Dans le sens où, théoriquement, quand tu regardes un film, bon, quand tu connais le cinéma, tu peux observer, dire là, il y a un plan séquence, là, il y a un machin et tout. Mais théoriquement, pour le public, il faut que ça soit le moins visible à l'œil pour que le public puisse s'immerger dans le film sans avoir la sensation d'être omnibilé de choses qu'il potentiellement ne comprend pas, ou etc. Et ben justement, il lui a dit, moi j'aimerais bien qu'à l'inverse, on travaille, au lieu de lisser le son, qu'on provoque vraiment quelque chose de différent, et qu'on vienne chercher qu'on vienne justement un peu attaquer le spectateur, ce qui est un peu paradoxal, puisque le film sort sur Netflix, donc l'ambition est différente de théoriquement la manière dont les gens vont pouvoir l'entendre et le percevoir. Mais je trouve ça intéressant, et ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que finalement, en fait, moi je me suis toujours dit ça, c'est ça que j'ai bien aimé aussi dans The Killer, c'est que donc on parlait de cette idée d'un personnage qui se dit on va dire anti-système, qui comprend qu'en fait, au fur et à mesure, plus il descend, plus il s'humanise d'une certaine manière et devient proche de la masse, mais déteste en fait la masse, hein, puisque manque de normies, quand il débarque à New York, si proche, machin, j'en ai un peu ras le cul. Et à la fin, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est que le premier plan de lui, c'est quand même qu'il est isolé, seul, au froid, dans un truc, dans un appartement, on va dire, désaffecté, quoi, puisque c'est un ancien truc de WeWork. Et à la fin, il est dans sa grande villa de riche avec sa femme, tranquillement, en train de se reposer au soleil, quoi. Donc c'est littéralement, en fait, celui qui voulait être opposé du système est devenu le système qu'il dénigre tant, en nous faisant croire qu'il fait partie de la masse comme nous, quasiment en nous faisant un clin d'œil à la fin, hein, pour bien se foutre de notre gueule, soit nous mentir à lui-même, parce qu'il refuse de se dire la vérité en permanence pendant le film, hein. Tiens-toi à ton plan, ce qu'il ne fera jamais. N'agis pas sur des choses sur lesquelles on t'a pas payé. Il y a plein de choses qu'il fait qu'on n'a pas demandé de faire, hein. Donc littéralement, c'est un mec qui se ment à lui-même, comme la plupart des personnages de David Fincher d'ailleurs. Mais c'est ça que je trouve intéressant, et en plus c'est aussi un film qui pour moi raconte beaucoup de David Fincher. Pour moi, c'est vraiment un autoportrait de David Fincher, ce qui m'a beaucoup plu dans The Killer, dans la manière dont il aborde les technologies, hein. C'est littéralement une critique des technologies, alors que Fincher ne fait qu'utiliser les technologies pour élever son cinéma en permanence. Il n'a fait que utiliser leur amélioration et leur perfectionnement pour perfectionner le sien et l'améliorer. Et ce qu'il dit en gros pour moi, hein, dans The Killer, c'est que le monde pourrait en faire de même s'il savait utiliser les technologies, mais comme le monde est pervers, il a détruit les technologies, voire il en a fait quelque chose, au lieu d'être bénéfique, de quelque chose de dangereux pour l'humanité. Et ensuite, bah, y a toute cette question, je pense, de ce rapport à Netflix, puisque le personnage est lui-même une sorte de salarié de grande boîte de capitalistes en permanence, en passant une sorte de visage de plusieurs boîtes capitalistes, bon, Amazon, etc., en permanence, vendeur de Starbucks d'ailleurs. Mais Fincher est lui-même, d'une certaine manière, soit le grand génie embauché par une boîte capitaliste, soit devenu le gros salarié d'une boîte capitaliste, c'est-à-dire Netflix, quoi. Donc je trouve les parallèles hyper intéressants. Je trouve que le film recèle de petits détails qui sont sans doute un peu invisibles, ou en tout cas pas donnés au spectateur, puisque le film te donne l'impression que son scénario est hyper limpide et hyper basique, ce qu'il est, hein, littéralement. C'est un tueur à gages qui tue des gens, quoi. Donc voilà, mais oui. En même temps, derrière, il y a toujours un petit truc en plus, c'est ça que j'aime bien.
Ouais, d'où le fait que la réception est d'ailleurs très divisée, ouais. ce qu'on reflète là, mais ce qui a escalé depuis le week-end dernier quand le film est sorti et que ça crée des réactions très polarisées. Et c'est ça qui est d'ailleurs, je pense, assez intéressant, qui reflète surtout que qu'on aime ou pas, ça reste un objet assez particulier. Mais c'est intéressant que tu parlais d'autoportrait de Fincher, parce que finalement, je pense que c'est peut-être un peu ça que j'ai envie qu'on explore ensemble aujourd'hui. Pour en déceler des idées, c'est finalement qu'est-ce qu'un film comme The Killer raconte de Fincher et qu'est-ce que la carrière de Fincher raconte de lui en tant qu'artiste. Parce que là, on a parlé de The Killer en tant que film sur un tueur extrêmement méthodique, mais finalement, on a souvent perçu Fincher, justement, voire réduit Fincher à cette idée d'un cinéaste maniaque, complètement obsessionnel, qui fait 10 000 prises pour chaque plan, qui a une mise en scène extrêmement contrôlée. Et on réduit d'ailleurs souvent Fincher à sa maestria technique, parce que c'est peut-être plus dur de le raccrocher à autre chose, étant donné qu'il a exploré plein de genres différents à travers ses films. Et donc finalement, ça amène un peu à la question, c'est quoi la patte Fincher et c'est quoi l'impact que Fincher a eu sur le cinéma de ses 30 dernières années, parce que ça fait quand même un petit moment qu'il est là et qu'il a eu un impact. Voilà, je sais pas trop comment on voulait peut-être... c'est quoi votre rapport là-dessus à cette patte Fincher ou à cette manière qu'il a eu de s'imposer depuis maintenant voilà, plusieurs décennies?
Alors c'est vrai que moi, comme je suis pas extrêmement sensible à son style, c'est pas le genre de cinéaste que je peux reconnaître au premier coup d'œil. Et surtout, j'ai du mal à dire en fait si mon appréciation de ses films plus anciens, en fait où justement je suis pas touchée par son esthétique et je la trouve cliché, est-ce que c'est parce qu'elle l'était déjà ou est-ce que c'est parce qu'elle a été beaucoup imitée depuis? Je saurais pas tellement dire. Tu vois, entre Seven, où je trouve que voilà, on est vraiment dans une esthétique de clip à la Green Day du début des années 2000. Oh, ce qui est bien, hein, mais
côté
bon.
Très grunge.
Oui, un côté grunge, ça. Un peu poisseux et tout, qu'on a tellement vu depuis. Je sais pas. Et pourtant, donc super chef-op, hein, c'était Darius Conji, et qui n'avait pas encore fait énormément de choses à ce moment-là, mais justement, il l'avait engagé à l'époque précisément pour avoir une patte originale sur son image. Et résultat, bah moi, je trouve que bon, bah c'est pas si intéressant que ça. Il y a une tentative, oui, mais j'ai l'impression que ça a été vu quoi.
Ah ouais, oui non quand même oui. C'est dur là.
Non mais je sais pas, enfin ça a été trop vu pour moi. Il y a pas assez de personnalité là-dedans.
Oui mais en le remettant dans un contexte, de son époque justement. Enfin ouais. Quand tu le remets, pour l'époque, je pense que Seven avait été une petite claque et c'est pas étonnant surtout qu'il a été suranalysé par la suite parce que effectivement, là où je te rejoins, c'est que je pense que ce genre d'objet-là qui a une valeur immense en perd forcément quand tout le monde essaie de copier le style. Mais
oui.
Moi, il y a un sens du détail dans Seven, dans autant les choix de cadrage. Bon, ça, c'est un truc qui revient peut-être plus à Fincher d'ailleurs, mais dans ses choix de photos de où est-ce que la lumière rentre. Moi, cette scène dans la bibliothèque avec le choix que Fincher a eu avec Conji de mettre des petites lampes vertes dans la bibliothèque qui font que t'as vraiment le truc tout jaunâtre avec juste ce contraste de vert qui aide à la lisibilité horizontale de la scène où toutes les tables ont cette putain de lampe verte. C'est ce genre de détails qui t'amène dans le film que je trouve absolument somptueux.
Après, je pense aussi, c'est normal que t'aies cette sensation, que t'aies déjà vu ça, mais je pense que ça vient vraiment de la patte Fincher. Enfin, quand tu parles de Seven, etc. Mais Seven, si on regarde un peu, ça complète. C'est pas Seven qui a été infusé d'influence, même si évidemment il n'est pas né de nulle part. Mais Seven a influencé tout un pan du thriller post-Seven, d'ailleurs. Enfin, du coup, des années 90, début 2000, qui prouve l'influence de Fincher, en tout cas à ce stade. Quand tu vois, quand on réfléchit un petit peu, par exemple, à Saw, tu vois, je pense à Saw, c'est littéralement, en fait, Seven, sans l'intrigue policière vraiment, et en totale torture porn. C'est-à-dire que dans Seven, t'as quand même une meuf qui doit choisir entre téléphoner avec un téléphone collé dans sa main, et avaler des pilules pour une raison, parce qu'en fait, elle a peur d'être... Enfin, soit elle vivra avec le visage complètement défiguré, soit elle refuse de vivre avec le visage défiguré dans une société des apparences, etc. ce qui est littéralement un défi de Jigsaw, hein. Disons-le clairement. Donc pour moi, ça a vraiment une influence sur ça, et d'une certaine manière, Seven, dans la violence qu'il transmet, etc., c'est un peu aussi, c'est un peu comme le, c'est un peu le film violent et vraiment très très sombre. Que Le Silence des Agneaux n'a pas été, par exemple.
Tu vois. Oh là 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 là.
J'adore Le Silence des Agneaux, hein. Ah attention, oui. Attention.
Mais c'est vrai que d'un point de vue stylistique, on n'est pas totalement au même endroit.
D'un point de vue visuel, ouais. Le Silence des Agneaux refuse de vraiment montrer une violence graphique, etc. Ce que Seven ne refuse jamais, en fait.
De toute façon, depuis la réunion sur Ryan Gosling, on sait que tu préfères Stay dans le style post-Seven.
Non, là, c'est vrai que complètement...
réalisé par un certain...
Ouais.
Ah mais oui,
David
c'est
Fincher,
vrai, qu'il était
oui, c'est vrai.
Ouais. Attends, ouais. Mais on a eu Mark Foster à la place, merci.
Mais avant qu'on me charrie trop, après cette esthétique Green Day, il y a quand même maintenant il a versé dans une esthétique, tu vois, que je trouve très très masculine. Tu vois vraiment genre le bleu métallique de tous les thrillers de ces 20 dernières années, qui sont tous dans la charte graphique des parfums pour hommes. Tu vois genre des déodorants Menen. Tu vois genre c'est bleu, c'est acier, c'est sombre. Et non mais c'est vrai.
Moi, j'aime beaucoup le côté pub pour Devo, j'aime bien. J'aime
bah
bien.
Ouais, mais c'est un peu ce que ça m'évoque, tu vois, où là, c'est pareil, on retombe dans une esthétique qu'on ressasse et qu'on connaît. Et le truc, c'est que encore maintenant, il la resserre, quoi.
Ouais, mais c'est magnifique. Après, ça a du sens parce que, t'en parleras peut-être mieux que moi, Antoine, même beaucoup mieux, je pense, mais ça vient à propos de Propaganda Film, donc la boîte de production qu'il a créée pour... avec plusieurs réalisateurs et plusieurs...
C'était 6 en tout, et Fincher était vraiment l'un des fondateurs de Propaganda Film, donc était une société à la base pensée pour faire du clip et plus tard de la pub au moment où MTV commençait à exploser et donc où le clip devenait vraiment quelque chose de très important. Et c'est vrai qu'eux ont émergé à ce moment-là, en sachant que Fincher lui a été repéré, c'était assez génial. Il a commencé donc d'abord dans les effets visuels, donc ce qui est aussi d'ailleurs une de ses grandes qualités, c'est que je pense que c'est quelqu'un qui a toujours dit d'ailleurs, en bossant un peu à ILM, surtout sur le Retour du Jedi, qu'il était effaré de voir des cinéastes ne pas comprendre comment les effets visuels fonctionnaient. Et lui, il a toujours dit j'ai besoin de savoir ce que chaque motherfucker fait sur un plateau de tournage, donc je pense que ça aide aussi à sa grande qualité technique. Mais l'une de ses premières pubs, qui à l'époque avait beaucoup choqué, on lui avait commandé une pub contre le cancer à travers notamment la question du tabagisme. Et donc, il avait fait une pub en reprenant la fameuse séquence de 2001 l'Odyssée de l'espace avec le fœtus, avec un fœtus qui se retrouve avec une cigarette dans la main, et en disant « Est-ce que vous voulez que votre enfant pas encore né se retrouve avec une cigarette pour inciter les femmes enceintes à ne pas fumer ?» Ce qui, à l'époque, avait beaucoup choqué, mais tout de suite, il y a pas mal de gens qui l'ont repéré en disant « Ah ouais, le mec a l'air bon. » Et plus tard, donc, plusieurs des créateurs de Propaganda, donc, qui étaient Dominique Senna, Greg Gold, Nigel Dick, Johnny Sigvatson, pardon, et Steve Golin, c'est l'un des derniers à l'avoir rejoint. D'ailleurs, Fincher est vraiment l'un des derniers fondateurs à avoir rejoint le groupe. Et en fait, quand ils ont émergé dans les années 80, c'était vraiment avec cette idée d'expérimentation totale qui leur a franchement servi. Parce qu'en fait, bon, à l'époque, ils n'avaient pas beaucoup de thunes, mais très vite, c'était l'idée de on peut faire du noir et blanc, on peut faire du montage bizarre, on peut tenter des trucs d'un point de vue stylistique. Il paraît que bon, les locaux de Propaganda, c'est un truc assez fantasmatique. Quand ils ont investi les locaux, ils avaient des bus entiers pour pouvoir faire partir les équipes de tournage. Ils passaient des films avec des projecteurs, ils passaient Metropolis ou des trucs comme ça en permanence sur les murs de l'espèce de bâtiment désaffecté qu'ils avaient investi. Il y avait du café partout, donc de toute façon les artistes venaient les voir aussi. Enfin, c'était assez il y a un récit là-dessus qui est, enfin, tout ce que vous pouvez trouver sur Propaganda est assez beau. Et il y a un bouquin de Benoît Marchisio qui est très très réussi sur la question et qui vous retrace un peu toute l'histoire de Propaganda. Et en fait, là-dedans, Fincher a vraiment explosé plus que tous les autres. C'est-à-dire que tout de suite, en fait, tous les gens qui ont bossé avec lui ont dit « Ok, le gars a un talent monstre. » Mais là où je te rejoins, Judith, c'est que je pense que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Propaganda, on l'oublie souvent, mais en fait, ça a été vraiment un vivier très, très important de cinéastes dans les années 80-90. C'est-à-dire que tu as... Spike Jonze qui vient de là, évidemment Michel Gondry, Michael Bay, Antoine Fuqua, j'en oublie parce qu'il y en a 10 000, mais en fait la plupart des cinéastes américains qu'on a jugés justement pour leur côté un peu clipesque, qui ont souvent commencé via le clip et la pub, quand ils ont pu faire du long métrage plus tard, en fait c'est des gens qui ont tellement imposé une patte énorme que ça a infusé tout Hollywood par derrière, en fait. Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus Fincher était un peu le roi de Propaganda en étant l'un de ses fondateurs et l'un de ceux qui avaient créé les clips et les pubs les plus fameuses, ce qui fait que d'ailleurs il y avait une sorte il était souvent le numéro 1 et pendant longtemps Michael Bay était un peu le numéro 2, c'est-à-dire que si tu pouvais pas avoir Fincher, tu demandais Michael Bay, mais Michael Bay lui-même à l'époque, même si plus tard il aura un style qui est le sien, piquait pas mal d'idées de David Fincher dans ses propres clips et dans ses propres pubs pour soi-disant en hommage, mais ça a pas mal je pense que le fait que ces cinéastes-là aient un peu tous enfin, aujourd'hui, on a un peu la sensation d'une redite vient aussi du fait que Propaganda a posé ce style-là.
D'accord, mais alors du coup, ça explique effectivement peut-être, tu vois, le fait qu'ils aient beaucoup, beaucoup marqué l'esthétique de l'époque. Pourquoi aujourd'hui, je trouve qu'un film comme Seven ou un film comme Fight Club ont vieilli, en fait, enfin, je vais peut-être pas employer le mot ringard, mais il y a un peu de ça, parce qu'en fait, ils sont tellement ancrés dans une époque et tellement représentatifs de ce style que bah, c'est difficile de perdurer ensuite, quoi. C'est vrai que, ouais, ils ont tellement, enfin, ils sont devenus clichés par eux-mêmes, en fait, effectivement parce qu'ils ont inspiré, mais du coup ouais, parfois moi j'ai un peu de mal à voir au-delà de ça quoi.
Bah, la grande tragédie de Propaganda en fait elle est surtout là, c'est qu'ils ont énormément expérimenté et t'as vraiment des trucs que tu peux voir chez Fincher. Moi il y a un clip que je trouve assez passionnant qui s'appelle Roll With It, donc une chanson de Steve Winwood, et où Fincher il s'est dit vas-y je vais faire un truc qui se passe un peu dans un saloon parce que c'est une chanson de plus ou moins de country, et il se rapproche vraiment au plus près des instruments et d'un mec qui va dans un saloon et qui est donc le chanteur qui se met à chanter plus tard, et il chante tellement bien que comme il danse super bien, il y a son bouton de veste qui éclate à un moment donné, et en fait il a tourné ça avec du coup ce qui s'appelle une Norkel lens, donc une lentille tuba, donc c'est vraiment un truc que tu utilises pour justement notamment quand tu fais de la pub pour filmer une canette de très près ou un burger ou je sais pas quoi, tu vois, un truc quand t'as besoin de filmer un produit pas forcément très grand et que tu veux faire une mise au point facile dessus, et il l'a mis sur une espèce de grue qui lui permettait de faire des mouvements très improbables tout près des instruments de musique ou tout près du mec, et en fait ça bah, plus tard tu le retrouveras dans Panic Room en fait, enfin, c'est vraiment les plans qu'il utilisera sur les longueurs de la maison, près des murs, allonger les murs, ou plus tard évidemment le plan séquence numérique qu'il utilisera dans Panic Room, où tu te dis Propaganda avait vraiment cette idée de l'expérimentation totale, et à l'époque ça leur a énormément servi, mais en fait le problème c'est que quand tous ont voulu passer au long métrage derrière, non seulement les studios ont été finalement assez frileux en se disant ah, les mecs ont été trop bons sur du clip, mais est-ce qu'ils peuvent prendre une commande de studio, et bon, bah, même Fincher galérera là-dessus, mais les Dominique Sénat, les Marc Romanek, enfin tous ces mecs-là qui ont essayé de marcher dans les traces de Fincher et qui étaient d'ailleurs les poulains de Fincher aussi, bon, bah, ils ont fait quelques films, hein. Enfin, Dominique Sénat, on a le très beau 60 secondes chrono et Opération Espadon, mais c'est à peu près tout, quoi. Et mine de rien, en fait, si tu enlèves Fincher et Michael Bay, qui sont vraiment les deux plus gros noms qui ont émergé de Propaganda et qui ont vraiment imposer leur style sur Hollywood, ils sont assez peu à avoir réussi à passer au long métrage.
Non mais en plus pour continuer sur Propaganda, c'est vraiment c'est à partir de là où tu sens que Fincher commence déjà à voir ses petits trucs, donc il y a toutes ces expérimentations visuelles avec le bouton et c'est une scène qui est au ralenti, hein, et qui est réalisée, ouais, du coup sans trucage, donc c'est quand même assez dingue visuellement, et les inserts deviendront quelque chose de quand même qu'on voit régulièrement dans son cinéma. Tu parlais du téléphone sous le lit de Panic Room, mais il y en a plein d'autres qui ne me viennent pas à l'esprit, mais il y en a plein des inserts, enfin, rien qu'avec certains génériques. On y reviendra, mais les génériques sont la moitié, c'est des inserts, beaucoup. Donc forcément, y a cette technique qui est là. Mais il y a aussi, tu sens cette capacité aussi à aller chercher quelque chose que personne d'autre ne serait allé faire quand il a fait Freedom 90 pour George Michael. C'est littéralement un clip où il filme des mannequins. Donc il y a Naomi Campbell, il y a Cindy Crawford, il y a Linda Evangelista qui font du playback sur la musique,
oui, sur la chanson. Ouais.
Sur la chanson. Et il a mis sa patte partout. C'est, il a choisi comment elles allaient être habillées. Il a fait un storyboard du clip. Il a mis sa patte partout, quoi. Et il a dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et tu sens déjà direct, on sent le tyran sur le plateau qui va décider, même pour un clip de 2 minutes 30, que c'est comme ça qu'on va faire, avec les petites indications qu'on lui a données, hein, que George Michael et Oula, ouais, ses producteurs lui ont données. Mais c'est lui qui va décider. Et tu sens qu'il a déjà une main mise sur à peu près tout, enfin, pas tout le monde, mais qu'il décide déjà de dire je suis le réalisateur, donc c'est moi qui vais avoir la main là-dessus, et c'est quitte à ce que j'expérimente des choses et que j'invente des trucs, hein, tout simplement.
Bah, ce qui a un peu posé aussi, pour le coup, le modèle Propaganda, mais qui aussi leur a coûté cher, littéralement, parce que c'est avec particulièrement Madonna, donc la plus grande, enfin le truc qui a vraiment posé Propaganda, c'est ses collaborations avec Madonna et donc celle de Fincher. C'est Fincher qui a rencontré Madonna, et leur collaboration s'est faite sur plein de clips, mais le plus fameux et qui a été donc leur première collaboration sur Express Yourself, et où Madonna avait des idées précises, donc vraiment ils ont collaboré à donf pour savoir ce qu'ils voulaient faire, et en fait Fincher mais a fait péter le budget. À l'époque tu faisais pour quelques centaines de milliers de dollars un clip, et tu le tournais en très peu de jours pour pouvoir le mettre très rapidement sur MTV. Alors la légende veut que ça soit entre 1 et 5 millions de dollars de budget pour juste ce clip là parce qu'ils ont fait trois décors différents avec une inspiration du côté de l'expressionnisme allemand.
Oui, c'est très Métropolis.
T'as vraiment un côté Métropolis avec les ouvriers qui se mettent à danser et Madonna dans son espèce de grand appartement, et où c'est elle d'ailleurs qui a forcé le truc, c'est à dire que Fincher avait cette inspiration là mais c'est Madonna qui a dit non mais allons vraiment sur le côté Métropolis à donf quoi, et ensemble ils ont vraiment poussé le truc. Et moi ce que je trouve intéressant, c'est quand tu regardes par rapport à d'autres clips de cette même période-là, qui déjà amènent le côté surcut permanent où tout est, où tu peux couper en plein milieu d'une phrase ou enfin d'une parole ou d'un truc comme ça. Fincher rythme vraiment sur la musique en fait. T'as vraiment une image qui est censée signifier quelque chose au moment où, si tu ne vois pas Madonna chanter, tu vas voir autre chose, mais ça va pas couper en plein milieu d'une réplique ou juste avant le refrain ou en plein milieu d'un truc. T'as toujours une suite d'idées claires, parfois rapide, mais très limpide, et la suite de plans qui débarque impressionne toujours par sa fluidité.
Bah en fait, c'est ça, moi, le truc, c'est que pour le coup, s'il y a un endroit où j'apprécie le style de Fincher et son travail, c'est les clips de Madonna. Enfin, parce que j'aime beaucoup Madonna, mais parce que vraiment, ces clips, je les ai beaucoup regardés gamine, et ils m'ont fasciné, notamment ceux-là. Il y a celui de Vogue aussi, ouais. Et de. Voilà, qui est quand même magnifique, et de Oh Father aussi, qui est un petit peu moins connu. Alors, ces deux-là, ils sont en noir et blanc, et c'est en noir et blanc que je trouve très, très beau, que je trouve. Pour ma part, beaucoup plus intéressant que ce qu'il fera sur Manque plus tard, on en reparlera. Mais
Alex meurt à l'intérieur.
Mais bon, c'est le cas avec cette espèce de halo blanc laiteux partout qui donne un côté très argenté, je sais pas, à l'image, que je trouve très beau. Et là, pour le coup, tout ce qu'on décrit des mouvements de caméra de Fincher qui sont très très doux, qui suivent tous les petits mouvements et son sens du rythme dans le montage, tout ça, en fait, c'est dans ces clips que je trouve que c'est le, je sais pas si je vais dire le plus abouti, mais en tout cas le plus pertinent, le plus efficace. Et dans ces moments-là, je me dis ouais, quand même. Enfin, du coup, peut-être que je le préfère quand il est associé justement là, dans une collaboration artistique avec quelqu'un d'autre aussi. Mais du coup, là, je le trouve un petit peu au max. Enfin, en tout cas, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup ces clips. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre dessus? Ah oui, et c'est intéressant parce que ces trois clips, tu vois, tu parlais de l'inspiration Métropolis pour Express Yourself. Oh Father, il cite directement le Citizen Kane d'Orson Welles, et Vogue, ça parle en long et en large de l'âge d'or d'Hollywood, et ça cite toutes les stars de l'époque, etc. Donc c'est marrant comme ils ont eu toutes les deux cette période d'hommage en fait au cinéma noir et blanc hollywoodien. Et
je pense, tu vois, pour tous ces cinéastes là il y avait justement cette volonté aussi que, parce que tu te réappropriais plein d'outils, donc justement des outils même du cinéma d'avant et des trucs très modernes. Je pense que ça c'est ça aussi qui a défini le style de Propaganda en fait, et qui a fait que petit à petit, je pense que Fincher a pu vraiment s'affirmer dans ce modèle-là comme très peu de cinéastes avant lui. Et en plus, ça, bon, déjà son œil évident, hein, ça je pense que c'est une question de talent, hein, tu l'as ou tu l'as pas, mais il a l'œil, c'est évident. Et comment plus tard de savoir gérer des équipes, y compris sur des trucs aussi ambitieux que ça, mais que tu devais faire très vite quand il a dû se retrouver sur des longs métrages. Tout de suite, il y avait ce truc-là. Il savait diriger des acteurs, il savait où mettre la caméra précisément, il savait comment travailler avec un chef-op. Enfin, il y avait tout qui était déjà là, en fait. Et je pense qu'effectivement, ce que ça lui a permis surtout, c'est d'affirmer son style. Et je pense que le vrai talent de Propaganda, ça a été de faire ça, en fait, de créer un vivier de cinéastes qui a pu expérimenter, comme tu as très peu de chances d'expérimenter dans le milieu, même aujourd'hui d'ailleurs, finalement, bon, beaucoup font de la pub et des clips, mais c'est peut-être plus calibré, et à part si tu fais des courts-métrages très arty, tu as peu la chance de te marquer autant stylistiquement, et du coup, quand tu passes au long, bah, ça roule tout seul, en fait.
Ouais, ça lui a permis de sortir avec Madonna, d'ailleurs.
C'était la même.
C'était 89, yeah. 91. Non, mais en plus, pour continuer, c'est exactement, c'est ça. Il y a eu l'expérimentation, il y a aussi eu vraiment cette mainmise sur le reste, quand tu vois qu'il se brouille avec Madonna sur Bad Girl, parce qu'elle refuse d'embrasser Christopher Walken juste parce qu'il pue de la gueule. Il lui dit, bah, je suis désolé, mais c'est dans le clip, en fait, donc tu vas le faire quand même.
Il parce peut que... pas se laver les dents, en fait, putain.
Apparemment, selon elle, il puait de la gueule. Après, ça se trouve, je sais pas si Christopher Walken puait vraiment de la gueule. Mais voilà, mais tu sens qu'en plus, moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est avec Propaganda, t'as cette expérimentation, etc., qui va lui servir pour ses films, évidemment, donc de savoir ce que tu dis, d'avoir l'œil pour savoir où placer sa caméra, où placer ses acteurs, comment les diriger, comment leur faire faire ce qu'il veut faire, comment jouer aussi avec ce qui ressort quand même beaucoup de ses films, comment jouer entre qu'il met à l'image et la musique qu'il va mettre à côté, hein, parce que le nombre de musiques qui viennent soit rentrer dans la thématique du film, soit venir à contre-courant. Quand tu vois qu'il y a Enya au moment de Millennium, moi j'adore la musique, j'avoue, mais quand il met Enya alors que Celebrate, je sais plus ce que c'est, enfin bref, la musique est super quoi, mais très joyeuse, et là d'un coup t'as juste Daniel Craig qui est en train de se faire torturer par le méchant. C'est vraiment à contre-courant, et il y a vraiment une sorte de jeu d'ironie comme ça que je pense le clip lui a apporté pour ses films. Et surtout, ce qui permet aussi à ces génériques d'être aussi puissants en si peu de temps. C'est-à-dire que le mec, on lui a appris, enfin, il l'a appris tout seul, mais le clip lui a permis d'expérimenter en très peu de temps et de raconter une histoire, hein, littéralement en 2 minutes, 3 minutes, ce que font la plupart de ces génériques. Quand tu vois le générique de Seven, où c'est littéralement l'entrée dans l'esprit du tueur, ou enfin, dans la méthode même du tueur, où on voit qui se coupe le bout des doigts, enfin, qu'on rentre dans son esprit.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Quand t'as Fight Club, c'est littéralement tout un truc dans le cerveau du personnage, ce qui, en plus de tout, hein, a du sens par rapport au récit. Hein. Il ne rentre pas dans la tête d'un personnage qui n'est pas confus vis-à-vis de son propre esprit. Hein, enfin, si, justement. Donc,
est-ce qu'on spoil Fight Club?
Je sais pas, mais enfin, en tout cas, ça a du sens de rentrer dans le cerveau d'un personnage aussi perturbé que le narrateur de Fight Club. Dans The Game, le personnage a un problème avec son père. Qu'est-ce que c'est, le générique? Ce sont des images d'archives du personnage avec son père. Donc, 2 minutes de juste des images d'archives de lui. Et ça part avec tout. Panic Room, c'est un peu une sorte de film coquin où il fait son huis clos. Et le générique parle de quoi? C'est un hommage à Saul Bass, et en même temps, c'est littéralement Fincher qui filme l'immensité de New York, la verticalité de New York, pour nous plonger dans un huis clos, c'est-à-dire se foutre de notre gueule, quoi, littéralement. Tu vois comment New York est vaste, moi en fait je vais t'enfermer dans une pièce qui est elle-même, enfin dans un appartement qui lui-même contient une minuscule pièce, quoi.
C'est marrant parce qu'il en parle, parce que t'as cette espèce, donc t'as les lettres énormes qui se mettent en surimpression sur les immeubles de la ville, avec vraiment un effet à la fois de reflet, de la lumière et d'ombre très réaliste, comme si, et en fait Fincher le voulait vraiment comme ça, en disant comme si ces lettres pouvaient vraiment être là, que tu pouvais les photographier pour de vrai. Et il dit, t'as un truc pour lui volontairement paradoxal à te dire, c'est une sorte à la fois de monologue intérieur, tu sais en tant que spectateur que c'est faux, mais que t'es prêt à accepter cette logique-là, et déjà t'amener dans un récit qui est purement fait de faux-semblants et d'une pure quelque chose de purement artificiel, en fait, qui évidemment plus tard va t'enfermer dans la petite maison du film, ouais, dans la Panic Room, mais dans cette maison faite en studio, avec vraiment cette idée d'être enfermé dans un, comme tu le dis, dans un pur truc hitchcockien, mais c'est très voulu. Moi j'aime aussi beaucoup, pour le coup, celui de Millennium, moi c'est vraiment un de mes préférés.
Bah oui.
Ouais, c'est presque un générique à la James Bond, un peu.
C'est comme ça qu'il le décrit. Hein. Il le décrit comme un générique à la James Bond avec une héroïne bisexuelle de 20 ans. Donc.
C'est pas mal. Mais avec en plus, bon, ce qui est assez terrible, c'est qu'il y avait des images, enfin, des volets 2 et 3 qu'on ne verra jamais, du coup, mais t'avais vraiment cette idée, moi je trouve très belle, de comment utiliser CGI de la plus belle des façons pour créer des formes et évoquer ce que va être la saga et évoquer les motifs avant même que tu les vois vraiment. En fait, c'est surtout ça, c'est comment utiliser tes génériques pour créer des motifs et déjà donner une ambiance visuelle et thématique avant même que t'aies vu la moindre image réelle de film. Et ça, c'est là-dessus qu'il est très très fort.
Après, moi, tu vois, c'est un peu le problème que j'ai avec le tout CGI, c'est que aussi bien le générique de Panic Room que celui de Millennium, même si à l'époque où j'ai découvert les films, je les trouvais assez balèzes, maintenant je trouve que ça fait un peu cheapos, quoi. C'est un peu ringard quand même. Puis en plus, celui de Panic Room, alors là, vous me trouvez une interprétation très intéressante, certes, mais moi, je trouve que ça fait juste un peu générique de film. Pourtant, je suis très pro-interprétation, mais là, bon. Voilà. Et je trouve que l'intention de celui de Millennium est très belle, mais la réalisation, tu vois, j'étais un peu déçue en le revoyant. Je suis oui, d'accord, quand même. Bon.
En plus, c'est un générique qui a pris, je sais plus combien de temps, mais ça a pris des mois et des mois à être conçu, hein, parce que c'est
à l'époque, CGI, c'était une galère.
Ça a pris, je pense que ça a bien pris au moins 6 mois, rien que pour être
réalisé.
Oui, c'est
ce qu'il a dit. Ouais.
Ça doit durer 3 minutes. Même pas.
C'est ça.
Donc
mais oui, il en parle très bien dans le commentaire audio en disant que il savait ce qu'il voulait, donc une fois que ça allait, ça roulait, mais ça demandait forcément un peu de temps de boulot. Mais du coup, par rapport à ce que je disais sur Propaganda, en fait, la grande tragédie, comme je le disais, c'est que finalement, très peu de cinéastes ont vraiment réussi à faire quelque chose après Propaganda. Et alors, sur le moment, Fincher a bien cru que ça allait être la même chose pour lui, puisqu'il... Je veux pas qu'on aborde le Fincher de manière trop chronologique, mais je pense que c'est quand même important de revenir sur Alien 3. Pour mieux déceler après peut-être des choses plus globales sur sa filmographie, puisque donc Alien 3, on le sait maintenant, ça a été l'un des plus grands calvaires de production de l'histoire du cinéma, je pense, puisque le film était donc programmé pour 1992 avant même d'avoir un scénario complet, et pendant très longtemps donc c'était Vincent Ward, cinéaste assez intéressant, qui était sur le film et qui avait une idée, alors pour le coup que je trouve assez passionnante encore aujourd'hui, hein, de station spatiale en bois avec des prêtres dessus qui refusaient toute technologie, et Ripley donc s'écrasait avec son vaisseau sur ce truc-là et faisait débarquer avec un alien, donc il n'y avait aucune technologie disponible pour les personnages pour pouvoir résister, et évidemment les prêtres croyaient que c'était l'alien était le diable, donc il y a des éléments de tout ça qui sont restés dans la version de Fincher, qui lui en fera une prison spatiale de manière un peu plus réaliste, où c'est normal qu'il n'y ait pas d'armes parce que c'est une prison et les prisonniers sont tous chauves et parce qu'il y a des poux partout, et voilà, donc c'est un peu l'enfer, mais tenait à un truc plus métallique. Mais malgré tout, il a la deadline de prod qu'on lui donne, et c'est un enfer, puisque du coup le scénario est constamment réécrit, des décors sont faits, mais rien n'est vraiment jamais terminé, donc c'est il est constamment en galère et à se battre avec les producteurs qui lui demandent de reprendre des scènes qu'il a pourtant déjà tournées. Donc c'est il y a une phrase là, je me suis amusé à revoir le documentaire qui était fait sur l'édition DVD d'Alien 3, donc où Fincher refuse de participer, hein, c'est quand même le seul de tous les cinéastes qui participent à ces documentaires-là de la saga, c'est le seul qui refuse de revenir pour en parler.
Parce que c'est aussi un film qu'il a toujours renié. Hein.
C'est un film qu'il a toujours renié, parce que pour lui, ça a été, il a dit récemment dans une interview, il a dit « je me suis fait sodomiser salement pendant 2 ans ».
Ah oui, d'accord. Bon, je sais pas si je prends cette phrase, mais...
Comme l'ours dans la forêt.
Ouais. Après, de toute façon, enfin, et c'est d'ailleurs notamment, t'as John Lando, donc le producteur légendaire de Scabron, pas n'importe. Voilà, les cinéphiles en mousse. Oh là là. Le producteur de James Cameron qui s'était retrouvé sur Alien 3 après Alien 2, qui lui ne tarit pas d'éloge sur Fincher en disant bon, quoi qu'on pense du film, c'est quand même la pire première expérience qu'on puisse avoir, et le fait que le mec ait quand même réussi à en faire un film au final qui tienne un peu la route. Et que bon, on a vu ce qu'il a fait par la suite, c'est déjà une sacrée prouesse. Mais il y a une phrase que je trouve assez terrible dans le documentaire, tu vois, où il te parle vraiment de toute la première partie de production qui s'est faite à Londres dans les studios de Pinewood, et où t'as l'assistant de production qui dit en fait, on n'a jamais fini le tournage, on a dû l'arrêter, en sachant pertinemment qu'on n'avait pas fini et qu'on allait reprendre aux États-Unis, où ils ont repris des scènes. Et en fait, ils ont fait un premier montage, ils ont montré le film en projection test, donc une version de 3 heures qui était irregardable. Et à partir de là, c'était de voir qu'est-ce qui nous manque pour. Reprendre au fur et à mesure, sauf que même là, bon, ce qu'ils ont, ils ont refait comme ils ont pu, mais le film est quand même fait un peu de briquet de broc, et malheureusement sur la version cinéma ça se sent un tout petit peu.
Ouais, tu sens quand même que Fincher a déjà, je sais pas à quel point le scénario s'il a eu une influence sur le scénario ou s'il a pu vraiment mettre sa patte, mais dans, on va dire, la première partie de sa carrière est quand même entre Seven, enfin beaucoup, on va dire Seven et un petit peu Fight Club, il y a cette question de la foi ou de la religion, en tout cas la religion en général, de la croyance qui vient beaucoup, et dans Alien c'est littéralement c'est quand même un propos plus qu'important, et du coup je trouve que le film est quand même intéressant, même si lui il le renie, pour l'avoir revu c'est quand même assez passionnant par rapport à ce qu'on disait, hein, des personnages féminins chez Fincher. Bon, bah, quel personnage, quel plus grand personnage féminin que Helen Ripley, hein, je pense, dans le cinéma d'action ou même de science-fiction ou même tout court. Et de la voir plonger dans un environnement très viril, très masculin, très viriliste, voire toxique, hein, parce que quand même elle se fait agresser à un moment donné. Tout le monde la voit comme la personne qu'ils pourraient tous se faire.
Un morceau de jambon, oui, là voilà. C'est vraiment. Oui.
Ce qui est assez désespérant, mais je trouve que c'est assez intéressant qu'il la ramène à une forme de masculinité, parce qu'elle-même, il lui rase le crâne, etc. Mais qu'elle reste pour des personnages prisonniers, hein, qui essayent de trouver une rédemption vis-à-vis de la religion, du coup, en étant croyants, etc., pour essayer d'effacer leurs péchés. Vis-à-vis de tout ce qu'ils ont pu faire, violer des gens, tuer des gens, bref, horrible quoi, des meurtriers quoi, des prisonniers tout simplement, et de voir que finalement leur dieu va devenir Helen Ripley, hein, c'est-à-dire la personne, enfin plus qu'une dieu, on va dire une prophète qui vont suivre au fur et à mesure, alors qu'elle était on va dire la proie et non pas le prédateur,
le futur prédateur,
proie,
du... oui.
Et le fait qu'elle soit plus ou moins porteuse de la mort et en même temps détentrice de la vie, hein, littéralement, puisqu'elle est enceinte entre guillemets de l'alien. Donc je trouve ça passionnant parce que c'est vraiment des thématiques qui reviennent chez Fincher à cette période, qui lâchera beaucoup plus après tout ce qui est la croyance, la foi, mais déjà tu sens que Fincher quand même joue beaucoup de ça et ça fait un bon film, même si il a pas pu faire ce qu'il voulait. J'ai l'impression qu'on ressent quand même sa patte.
Ouais, non, pour moi on ressent clairement sa patte, lui-même en parle beaucoup, notamment ça pour le coup, la grande qualité de la saga Alien, c'est que les 4 premiers épisodes ont vraiment le mérite d'avoir chacun leur style spécifique, et mine de rien tu peux pas enlever aux 3 d'avoir quand même ces trucs à lui. Déjà il y a par rapport au décor employé comme il y a une grande hauteur sous plafond, il y a une grande présence des contre-plongées, ce qui est assez pratique pour Fincher, non seulement pour te montrer l'ampleur des décors, mais aussi pour reculer et te montrer des groupes de personnages communiqués. Et enfin, c'est un style que je crois que c'est un des opérateurs qui s'en est rendu compte pendant qu'il tournait, mais finalement il a dit ça, c'est, il y a un truc très beau là-dedans. Et puis évidemment la caméra subjective de l'alien avec ce mec en steadicam qui a mis la caméra à l'envers, enfin c'est une idée de génie absolue. Et déjà t'as le sens de la précision de Fincher aussi dans le cadrage, c'est-à-dire dans sa manière notamment de faire des séquences de groupe. Justement, c'est des trucs qu'ils ont été plus ou moins obligés de garder parce qu'il fallait bien faire de l'exposition et montrer certains personnages et montrer les engueulades de personnages qui comprennent pas la situation. Et donc, je pense qu'avec n'importe quel cinéaste un peu médiocre, ça se serait encore plus mal passé. Mais en fait, lui, il arrive toujours à t'en tirer un truc très rythmé et où les dynamiques de groupe se perçoivent toujours parce que justement, tu sais qui est au-dessus de qui, tu sais quand il fait un cut, que ça a toujours du sens. Et je trouve là-dessus que le film est extrêmement bien équilibré. Et par rapport à ce que tu disais sur les thématiques, notamment sur la religion, pour ça je pense que c'est bien de se baser sur l'assembly cut. Alors déjà quand tu regardes les DVD d'Alien, c'est le seul qui n'a pas de director's cut ou de version longue, hein, à proprement parler, donc c'est un assembly cut, donc de toutes les scènes qui n'ont pas été gardées ou qui ont été remplacées. Donc je pense que déjà ce qui serait cool, c'est aujourd'hui d'avoir peut-être une version d'Alien 3 qui rassemblerait le meilleur de la version cinéma et de l'assembly cut, parce que t'as à boire et à manger dans les deux versions finalement. Mais t'as le changement majeur et qui pour le coup est super intéressant et qui rejoignait ce que Vincent Ward voulait faire à la base, c'est qu'en fait dans le deuxième acte de la version cinéma, ils essaient de piéger l'alien, mais en fait ça ne marche pas parce que l'alien arrive à tuer un des mecs qui en fait a une sorte d'explosif avec lui. Donc en fait quand ils veulent piéger l'alien, ça ne marche pas et l'explosif fait tout péter et tue plein de gens qui du coup meurent hors champ parce que tu les reverras plus dans le film. Alors que dans la version longue, ils arrivent à piéger l'alien dans une pièce blindée. Et en fait, c'est l'un des personnages du film qui s'appelle Golic, qui en fait est l'un des premiers à voir l'alien dans le film, qui en fait devient complètement fou et est persuadé que l'alien est justement une forme de divinité avec laquelle lui a une connexion particulière, et donc il va libérer l'alien qui va du coup recréer du dégât. Donc évidemment déjà il est le premier à crever, hein, dans l'opération, mais à cause de ça, ça relance le troisième acte, mais ça crée une vraie dimension mythologique que t'as pas dans la version cinéma, et c'est trop dommage, et qui, bon, d'un point de vue purement logique, déjà fait que t'as plein de personnages qui disparaissent dans la version cinéma de manière un peu mystérieuse, alors que tu comprends mieux ce qui se passe dans l'assembly cut.
Ouais, ce que je trouve assez intéressant dans celui-là, alors pour le coup, moi c'est vrai que j'adore le premier Alien, et je suis beaucoup moins fan des suites, il y en a aucune, c'est pareil, que je trouve complètement inintéressante ou nulle, mais on va dire qu'aucune ne prend la direction que j'aurais aimé voir prendre après le premier. Je trouve qu'elles s'éloignent toutes beaucoup des sujets centraux, mais finalement, même si c'est celui-là, si le 3 c'est celui que j'aime peut-être le moins de la saga, c'est quand même celui qui, je pense, est peut-être le plus fidèle au, justement, aux thématiques mystiques et mythologiques et religieuses du premier. Donc, même s'il a une vision beaucoup plus déprimante, effectivement, un petit peu fataliste des choses, on est quand même sur une intention que je trouve plus intéressante que dans Aliens, qui a ses qualités, on va dire, mais qui était beaucoup plus dans le l'action, on s'amuse, on y va avec les gros sabots sur la féminité, enfin la maternité, tout ça, bon, qui est moi qui me gave gentiment. Et du coup, bon, je suis pas fan de cette proposition, mais je reconnais qu'il y a une sensibilité dépressive chez Fincher qui était assez en accord, et je trouve que ça reste intéressant malgré tout de voir sa take, on va dire, sur la thématique alien, quoi.
Mais ça amène peut-être justement à ce qui nous intéresse aussi là-dedans, c'est que finalement, pour ouvrir un peu plus généralement sur Fincher, c'est que on lui a reproché à l'époque d'Alien 3, c'était une critique qui était faite envers le film, autant par la Fox en elle-même que plus tard par les spectateurs qui, à l'époque, n'ont pas trop aimé le film, qui a regagné en popularité avec sa sortie vidéo. On lui a reproché le nihilisme et le désespoir, qui, bon, déjà était aussi présent dès la version de Vincent Ward, hein, pour le coup, donc c'est pas totalement imputé à Fincher non plus, surtout que, pareil, Sigourney Weaver voulait que ça soit le dernier, hein, donc elle a dit « vous me faites crever, moi j'en peux plus, on arrête là ». Bon, ça les empêchera pas de faire Alien 4 plus tard, mais... Moi, je trouve que ça amène cette question assez passionnante chez Fincher, avec des personnages qui sont souvent, non seulement au bout du rouleau, mais dans des univers qui sont eux-mêmes constamment au bord de l'implosion, de l'explosion. Et donc, quand t'es dans un monde qui semble n'avoir plus de sens, comment tu le réappropries ? Et en fait, ça devient les thématiques qui, logiquement, l'attirent dans ses films suivants, à commencer par Seven et Fight Club.
Oui, bah alors c'est vrai que de toute manière, moi, je trouve que c'est vraiment ce qui va traverser toute sa filmographie, hein. Clairement, je trouve que globalement, ses films sont déprimants, voilà, que ce soit plus ou moins pertinent ou pas, mais en tout cas, ça peut jamais bien se finir, quoi. Il y a toujours au moins... Enfin, soit ça se finit carrément mal, soit il y a toujours une note dépression, on va dire. Et du coup, ouais, Seven, ce qui est intéressant, c'est que là, comme on parle d'un contrôle freak, plus ou moins, freak à l'anglaise, hein, pas comme freak l'argent, évidemment. Et c'est qu'en fait, du coup, là, c'est un film qui sort en 95, et c'est l'histoire d'un tueur en série, enfin, en tout cas, d'inspecteur qui enquête sur les meurtres d'un tueur en série, qui, là, justement, essaie de faire rentrer la vie humaine, et notamment les défauts de la vie humaine, dans les cases des sept péchés capitaux, pour essayer justement d'avoir un contrôle sur cette vie humaine et de se la faire sienne, et de soumettre en fait son entourage justement au plan mystique que lui il a imaginé autour de ça. Donc, comme d'habitude, je le reprécise, je suis pas fan du film, mais je trouve que la thématique est intéressante. Et justement, ce qui est marrant, c'est que Fincher, à l'époque, comme il sortait d'Alien 3, il s'est dit « mais plus jamais je fais un film !» C'était horrible. Et en fait, on lui a envoyé le scénario de Andrew Kevin Walker, et en fait, il a eu envie de le faire. Notamment, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il l'a fait du coup un peu sur une erreur, parce qu'au départ, on lui a envoyé la version qu'il ne devait pas recevoir, oui. C'est-à-dire la version originale avec cette histoire de, désolé spoiler, mais de la tête dans le carton. Et c'est une fin que le studio avait déjà demandé à retravailler à ce moment-là, parce qu'il trouvait ça un petit peu violent, un peu pas ouf, il voulait un final avec de l'action et un peu moins dégueu, et voilà. Et en fait, Fincher a lu cette version et il a milité évidemment pour garder en fait cette fin là et il a eu gain de cause, parce que quand Brad Pitt est arrivé dans l'équation, lui aussi il a insisté pour que cette fin reste. Donc c'est pour ça qu'on a le droit à cette fin qui est devenue culte, voilà.
What's in the box? What's in the box? C'est vraiment, il est complètement PO à ce moment là il ne sait plus ce qu'il suit là-bas. Box.
Voilà, Alexandre qui fait sa
meilleure imitation de Brad Pitt, hein, voilà.
Et si c'est un film de Fincher aujourd'hui, c'est parce que David Cronenberg et Guillermo del Toro ont refusé de le faire.
Putain, del Toro.
Eh ben, tant mieux.
Ah. Ah, pour le coup, alors, tu vois, dans un monde parallèle, je serais curieux de voir la version de del Toro sur un.
Il y aurait eu un monstre
sur Seven.
Une créature qui débarque.
Et donc à l'époque, s'il fait appel à Darius Conji, qui à l'époque avait été chef op, donc pas sur énormément de films encore, mais qui avait notamment fait Délicatessen et
La
Cité des Enfants Perdus. Merci. C'est justement parce que son intention artistique, c'était de réussir à faire du noir et blanc en couleur. D'où peut-être. Tu vois, les contrastes très poussés, les noirs très noirs, ce genre de choses. Donc voilà, en tout cas, il y a une intention qui est claire, c'est sûr. Et ça a donné cet objet. Alors, je suis pas fan du résultat, mais il y a quelque chose, on va dire, qui a établi, je pense que ça a établi un peu la figure que Morgan Freeman réinterprétera beaucoup par la suite, Brad Pitt aussi, plus ou moins, enfin, ça a défini une sorte de modèle, on va dire, qui confirmera ensuite avec Fight Club. Et voilà, alors je sais pas ce que vous, à quel point vous êtes...
Non, mais en fait, c'est marrant parce qu'au début, tu disais que les films de Fincher sont dépressifs, voire il y a une forme de fatalité. Mais je pense que c'est logique parce que ces films, c'est des films, on va dire, du genre néo-noir. Mm. Et le film noir, c'est littéralement ça, la thématique. Hein, c'est la noirceur, la fatalité, globalement, l'angoisse, etc. Donc ça a du sens, finalement, que ces films, qui sont des films... pastichant ce qu'était le film noir dans les années 30, 40, avec Howard Hawks, avec Otto Preminger, etc., et deviennent maintenant presque un peu son terrain à lui, quoi. Le film néo-noir, c'est un, je pense, même si je ne connais pas l'histoire du cinéma dans sa globalité, dans tous ses détails, tous ses retranchements, mais qu'il a réellement insufflé quelque chose de moderne à au film noir pour littéralement le transformer dans quelque chose de... on va dire sombre, ce qui était déjà les films de l'époque des années 40, etc., 50, mais beaucoup plus frontal, ouais. Tu vois, dans la violence et dans la physicalité de certains éléments. Quand je vois Fight Club, pour l'avoir revu récemment, Fight Club, moi j'ai une adoration particulière, une admiration particulière pour le film, parce que c'est littéralement le film qui m'a donné envie de m'intéresser au cinéma. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que j'aime bien David Fincher, mais quand j'ai vu Fight Club pour la première fois, je ne connaissais rien au cinéma. Tout ce que je voyais, c'était les Harry Potter avec mon père au cinéma quand ça sortait avec mon frère, et j'allais voir les adaptations de livres que j'avais lus, donc La Route, ce genre de trucs. Donc clairement, je n'y connaissais rien. Et quand j'ai vu Fight Club, j'ai été abasourdi de « Ah ouais, on peut faire ça en fait. On peut genre en fait me rendre si mal à l'aise en permanence » que ça me prend au trip. Pour l'avoir revu, je ne me souvenais pas autant à ce point, mais la violence dans le montage, des cuts qui viennent t'agresser en permanence pour littéralement t'enfoncer dans l'enfer que vit le narrateur et dans lequel il est en train de s'enliser de plus en plus au fur et à mesure que le récit avance, et de voir le son comme il peut être très violent, très aigu d'un coup, très très bas, de changer en permanence littéralement, enfin je sais pas comment expliquer plus que ça, mais l'image, comment elle peut venir t'agresser en permanence, etc. Et ça je trouve que c'est vraiment c'est l'idée de comment venir moderniser ce film noir, comment venir aussi surtout te pousser dans tes retranchements, ce que moi j'avais pas vraiment vu encore à cette époque. Enfin, Fight Club, peut-être avant, il y avait des gens qui avaient fait ça, mais moi, quand j'ai découvert ça, ça m'a vraiment marqué. Et c'est ça que je trouve fort par rapport à cette histoire de désespoir, parce que finalement, le film raconte avec une immense violence comment un personnage est en train de s'enliser pour venir apporter une forme d'espoir un peu ambiguë à la fin. C'est-à-dire qu'il y a quand même une destruction monumentale d'un système qui... bah, du coup, va poser de graves problèmes, hein, même si on ne le voit pas dans le film. Ça va quand même probablement causer un sacré bordel dans le monde.
Dans l'économie mondiale. Il parle de nouvel ordre mondial, d'ailleurs. Oui. On en parlait sur The Killer, mais c'est un élément qui revient souvent chez Fincher. Un ordre mondial, et donc comment, dans un univers de plus en plus mondialisé, qui est le monde dans lequel évolue David Fincher, et dans lequel évolue son cinéma, qui est très souvent contemporain, comment tu te positionnes et comment ces personnages-là essaient de se trouver une place, et très souvent ils n'y arrivent pas en fait, alors ils essayent mais c'est plus ou moins vain. Je trouve que dans Fight Club t'as ce truc où en fait on a souvent parlé de Fight Club dans l'ambiguïté qu'il pouvait y avoir dessus, mais je trouve qu'il n'y en a pas tellement en fait. Le film a parfois été mal perçu par certains symboles par l'attrait immédiat excitant de la narration et notamment de son twist qui fait que oui, tu peux te dire il y a un truc fun dans Fight Club et je peux m'identifier à ces personnages là tu vois. Je vois des Américains qui en parlent en disant moi aussi dans le côté incel des personnages je m'identifie trop. Tu dis non, c'est pas ça qu'il faut comprendre du film, mais tu vois en fait des personnages qui se sentent enfermés, qui en fait cherchent une symbolique et cherchent à défier la mort de manière symbolique. Et donc t'as ce truc très beau, en fait le personnage se dit bah c'est le capitalisme qui me permet ça, c'est ma maison parfaite avec mes meubles Ikea, ce truc voilà du consumérisme dans tout ce qu'il a de plus vain, et de se dire en fait non, ça me pourrit la vie, il faut que je m'en sépare, et le meilleur moyen c'est de créer un système autre qui va se mettre à combattre ce consumérisme. Mais en fait en voulant se libérer, le seul truc qu'ils font tous c'est de s'enfermer, et lui le premier, dans un autre système qui en plus devient totalement fascisant.
Alors là, ce que je trouve intéressant sur ce que tu dis sur la fin qui est ambiguë, pas si ambiguë, et qui annonce quand même des choses graves ou en tout cas inquiétantes, etc., c'est du coup le personnage de Marla joué par Helena Bonham Carter. Ouais. Même si je trouve pas ce personnage révolutionnaire ou particulièrement intéressant, là où je le trouve intéressant, c'est malgré tout la manière dont il est mis en scène, parce que donc on vient quand même de Seven où pour le coup Gwyneth Paltrow, elle sert, c'est pareil, là encore une fois, que de femme dans le frigo, elle sert qu'à se faire buter et
enfin, dans le carton du coup.
Oui, dans le carton, exactement. Où elle est, enfin vraiment là, je trouve qu'on entre vraiment dans la période de où les personnages de David Fincher, enfin ces personnages féminins, pardon, sont en fait tous la cool girl que le personnage de The Gone Girl finira par décrire, quoi. Mais non, mais c'est terrible. Et Marla, c'est un peu plus intéressant parce qu'en fait, quand on connaît le twist du film, enfin moi je l'ai revu évidemment en connaissant le twist bien sûr, mais en fait la manière dont le personnage de Marla est mis en scène au début est présenté. Elle est vraiment présentée comme un ami imaginaire. Enfin, vraiment, c'est très étonnant. On a l'impression que c'est elle, en fait, la personnalité double du personnage. Parce qu'en fait, elle est tout le temps là quand lui, il est là. Mais je veux dire, elle n'existe que dans son regard. On la voit jamais sans lui, en fait. Elle est mise en scène au départ quand elle fait un peu sa provoque. Là, elle se poste au milieu de la route et il y a les voitures qui passent dans tous les sens et elle lui parle. C'est complètement irréel comme scène. On a l'impression que les voitures lui passent au travers, en fait, ouais. Qu'elle n'est pas là. Il dit plusieurs fois qu'elle est un miroir de lui, ce genre de choses. Et vraiment, je me suis dit, mais... À quel moment c'est pas elle le personnage de l'autre personnalité? Et du coup, à la fin, moi, ça m'a donné l'impression finalement que oui, elle était aussi une personnalité supplémentaire dont il n'avait pas conscience et qu'en fait, il retombait, tu vois, dans le schéma qu'il avait. Oh, mind blown! Et qu'à la fin, en fait, il n'est pas du tout libéré de cette maladie, quoi.
Non, mais c'est hyper intéressant comme piste de d'analyse, hein, parce que j'ai jamais pensé à ça. Même si je trouve qu'il manque de personnages, et pour en parler régulièrement avec ma compagne, qu'il manque régulièrement de personnages féminins dans les films de Fincher, globalement, ce que je trouve fort, en fait, dans les personnages féminins de Fincher, même s'ils sont rarissimes, voire, on va dire, uniques, enfin, il n'y en a qu'un par film, je veux dire, dans les premiers films, t'as vraiment cette sensation que les femmes, en tout cas la femme du film, est... Et ce que devrait être, enfin, on va dire l'idéal du monde, dans le sens où pas qu'elle soit une personnalité parfaite, mais elle est tout ce que devrait être, tout ce que n'est pas l'homme en général. C'est-à-dire que Gwyneth Paltrow, c'est littéralement une femme qui est broyée par la ville dans laquelle elle vient d'arriver à cause de son mari et qui est broyée par des hommes. Elle va mourir, à cause d'un homme encore. Dans The Game, c'est un peu différent avec le personnage qui suit Michael Douglas, mais globalement, elle commence au fur et à mesure, elle devient de plus en plus quelqu'un qui subit la folie de Michael Douglas. Dans Fight Club, bah, t'as Helena Bonham Carter, Marla Singer, qui est finalement l'accroche au réel du personnage. Donc, c'est-à-dire que lui, qui est entouré d'hommes virils, qui vont en fait le détruire peu à peu, parce que en fait, c'est un peu la quête. En fait, le fait qu'ils aient une sorte de groupe de virilité, une sorte de secte de virilité, va les amener à l'autodestruction. Enfin, le narrateur en tout cas, alors que elle, la seule femme du film, est son accroche au réel. Et surtout, c'est pas anodin, mais quand on parle d'animal totem. Dans le film, au début, ils voient un pingouin et ensuite, quand il revoit son animal totem, il la voit elle. Pourquoi ? Parce qu'il pense qu'elle est là et qu'elle le fait chier. Mais en fait, non, là, c'est juste que c'est un indice, quoi, pour toi, frérot. C'est littéralement la personne qui va te sauver. Et c'est littéralement comme ça, Jodie Foster aussi dans Panic Room, hein, c'est une femme qui se fait écraser par la ville, qui a été abandonnée par son mari, lâchée avec sa fille et qui va se faire encercler par des hommes. Donc c'est ça que je trouve intéressant dans les personnages féminins, et ce que tu dis par rapport à Marie Singer est vraiment intéressant, parce que je ne l'avais pas vu dans cette analyse-là, même si je pense que du coup c'est aussi bien qu'ils soient enfermés avec elle, du coup.
Peut-être c'est mieux en tout cas qu'avec Tyler Durden. Mais alors du coup, est-ce que c'est là qu'on parle du fait que c'est marrant qu'ils mettent en scène ces dynamiques de femmes qui sont broyées par des hommes et qui travaillent tout le temps avec des types qui ont des accusations de violence conjugale aux fesses? C'est marrant.
C'est vrai que j'avais pas fait ce rapprochement.
C'est vrai
qu'entre Kevin Spacey, bon lui c'était aussi avec les hommes. Mais,
non mais Fassbender, Brad Pitt et Gary Oldman.
Fassbender, moi je savais pas. Hein.
Ah ouais. C'est chaud, hein.
Ah,
il a pété le genou de sa nana.
Moi, en revoyant Fight Club, je me suis dit, c'est quand même marrant de parler d'un truc de secte quand t'as Jared Leto qui en fait partie, quoi.
Oui.
Ça, je trouve ça très rigolo.
Oui, mais en plus, c'est marrant que Jared Leto soit dans Fight Club et qu'ensuite il soit dans Panic Room et que dans Panic Room, il se fasse littéralement buter comme une merde, parce que je pense que Fincher en avait ras le cul de lui. Et qu'il a dit, ah, mais ce gars en fait est grave relou, son personnage est... du coup je vais faire un mec grave relou que je vais pouvoir buter au milieu du film.
Je trouve que c'est un des rôles les plus satisfaisants de Jared Leto pour cette raison, absolument. Clairement. Ouais. Mais en fait, c'est marrant qu'on parle de tout ça parce que ça amène, je pense, à l'un des thèmes, enfin, une des polémiques assez majeures qu'il y a toujours eu autour de Fincher, finalement, qui est la question de à quel point il embrasse cette toxicité masculine, qui est notamment celle dans Fight Club, et qu'on peut retrouver aussi plus tard dans The Social Network avec la création de Facebook qui se fait d'abord via le rejet que Mark Zuckerberg a de sa copine qui le tège en début de film et qui l'amène à créer FaceMash, qui est donc ce premier site qui fait péter les serveurs d'Harvard avec de la comparaison purement physique entre toutes les femmes qui sont à Harvard et où il incite tous les mecs à se connecter sur le site pour choisir quelles sont leurs meufs préférées entre plusieurs portraits qui leur met à la suite. Et plus tard, tu parlais de Gone Girl aussi, ça paraît assez évident aussi, et on a accusé pour le coup le film de tout et son contraire, à la fois de misandrie mais aussi évidemment de misogynie. Donc c'est assez intéressant, la question du genre se pose toujours chez Fincher et de la place du genre et comment l'un essaie toujours de prendre l'ascendant sur l'autre.
Pour le coup, moi Gone Girl je trouve assez passionnant pour ça, enfin cet aspect là je trouve pas le film passionnant, mais cette thématique là je la trouve passionnante.
Tu peux le trouver passionnant. Il est vraiment exceptionnel, donc
Alors du coup par contre non, mais là où Fincher pour le coup arrive à avoir un regard intéressant sur les personnages féminins, c'est quand en fait il en fait son sujet, parce que dans Gone Girl c'est effectivement de sujet, donc là il va développer des thèses très intéressantes en plus du coup avec l'aide de j'ai oublié son de Gillian Flynn je crois,
oui, c'est oui, l'auteur
donc l'autrice du roman dont c'est tiré et qui a été aussi du coup co-scénariste sur le film, avec qui il a complètement accepté de collaborer dès le début, donc elle s'est pas fait tèche de la production comme beaucoup d'auteurs qui sont adaptés à Hollywood, donc c'était intéressant. Mais autant quand c'est pas son sujet, les filles de ces films sont complètement inintéressantes et elles deviennent les femmes dans le frigo ou dans le carton et les cool girls basiques, voilà, inintéressantes. Donc c'est dommage que ça ce soit sa version neutre des personnages féminins, mais quand il met le focus dessus, ça devient beaucoup plus intéressant. Et Gone Girl, en fait, je trouve que là où certaines franges féministes peuvent avoir un petit peu du mal, c'est parce qu'en fait, c'est vrai qu'on met vraiment en scène un personnage de manipulatrice qui, du coup, est vraiment, comment dire, le cauchemar de tous les hommes qui disent « Oh mon Dieu, mais les accusations, c'est tout le temps faux et tout, machin !» Parce que là, effectivement, c'est faux. Et du coup, voilà, c'est le contexte, en fait, c'est vraiment contextuel, on va dire, la manière dont le film peut faire grincer des dents. C'est parce qu'on vit dans un monde où c'est faux, enfin, où, je veux dire, il y a extrêmement peu de fausses accusations et qu'il y a énormément de vraies accusations qui ne sont jamais prises en compte. Donc, je comprends que ça peut faire un peu chier de voir ce genre de représentation, certes, mais en revanche, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que le film justement nous propose un personnage féminin qui est violent, et c'est ça qu'on a envie de voir aussi, parce que l'idée c'est de montrer que oui, les femmes elles peuvent être aussi violentes que les hommes, même si d'habitude on nous montre des Gwyneth Paltrow, bah les Amy Dunn elles existent aussi, et justement en fait elle est un pur produit d'une société qui est créée par des hommes comme Ben Affleck, qui sont pas des meurtriers, mais qui en fait se rendent pas compte, qui se complaisent dans un système qui broie les femmes petit à petit, et eux sont persuadés d'être plus ou moins gentils, des maris à peu près corrects, aimants, oui ils trompent un peu, mais bon c'est pas bien grave.
Ça va.
Voilà. Et elle en fait c'est bien plus que se venger d'un mari qui la trompe en fait, c'est en fait d'un mari qui lui vole complètement sa vie parce qu'il l'enferme dans un quotidien en fait où elle ne peut absolument pas se réaliser et s'accomplir, et en fait elle représente un peu le fantasme de beaucoup de nanas qui au bout d'un moment, si on était juste un tout petit peu plus tard, on serait toutes des Amy Dunn.
Et alors qu'il y a le paradoxe en plus que elle est un personnage donc de fiction, enfin par ses parents qui ont créé une sorte de Martine like, Amazing Amy. Voilà, mais qui en plus ont créé ce truc là horrible où Amazing Amy est toujours en avance dans la vie sur la véritable Amy, ou alors réussit là où la véritable Amy a échoué, et donc et qu'en plus c'est plus sa mère d'ailleurs qui a écrit ce personnage là que son père, mais bon le couple de parents est un peu fonctionne de pair, mais où tu sens que même du coup cette femme là aussi a été finalement conditionnée par le patriarcat d'une certaine façon, et donc amène plus tard Amy à se dire bah il faut que je réagisse à ça, et je réagisse à mon moi de fiction et à ce que je pourrais être et à ce que mon mari ne me permet pas aussi d'être. Et au final, sa vengeance est plus la vengeance de « je veux retrouver la vie que je mérite ». Et où effectivement, là, du coup, ça fait peur à tout le monde, et ça fait peur en particulier aux personnages masculins. Mais où, moi, ce que je trouve, là où je trouve le film très fort, c'est qu'il arrive constamment à créer cette frontière très fine où d'un côté, tu es forcément un peu du côté de Ben Affleck au début, surtout que tu as l'incompréhension initiale du personnage, mais en même temps, tu peux pas t'empêcher de te dire « je comprends le personnage d'Amy ». Et je trouve qu'il y a une scène en particulier qui est très maligne parce que elle est finalement plus discrète qu'il n'y paraît, mais elle reflète toute l'incompréhension que le personnage de Ben Affleck a de la situation. C'est quand lui enquête de son côté pour se dire « Ok, ma femme est tarée, il faut que je comprenne ce qu'elle a fait dans le passé avec ses ex. » Donc, il rencontre d'abord le mec, pour le coup, qu'elle a accusé de viol, qui a une vie terrible depuis. Donc, à ce moment-là, t'es un peu dans la compassion. Et puis, il va voir Neil Patrick Harris. En se disant, lui, c'est pareil, tu vois. Et en fait, Neil Patrick Harris le reçoit, mais avec une froideur totale, il le fait pas rentrer. Il y a sa porte qui fait effet barreau en plus, donc qui crée clairement une scission dans les personnages. Lui cherche l'espèce d'approbation de ce personnage-là en disant, on est dans la même merde tous les deux. Et tu vois que Neil Patrick Harris ne lui donne rien d'un point de vue, d'un point de vue du visage, il n'y a aucune expression, tu sens qu'il y a un rejet même. Et là, Ben Affleck ne comprend pas. Ce que toi, plus tard, tu comprends, c'est qu'en fait, là, pour le coup, Amy s'est vraiment séparée de ce mec-là parce que le mec est fucked up au possible et va lui faire vivre une misère et elle va devoir s'en libérer de la pire des manières.
Bah, ce qui est incroyable, non, enfin, moi, j'aime beaucoup la manière, pour le coup, dont est écrit ce personnage parce que c'est une version peut-être un peu caricaturale et encore, mais de choses qu'on voit partout. C'est qu'au départ, il lui fait croire que oui, il va prendre soin d'elle, le personnage de Neil Patrick Harris, qu'il va la cacher pendant sa cavale, qu'il va s'occuper d'elle, qu'elle est safe chez lui et tout. Et en fait, alors qu'elle est censée être complètement traumatisée, en tout cas dans la version des événements qu'il a lui, et être extrêmement vulnérable et une victime, dès le lendemain, il lui dit bon, bah, il y a une salle de sport au bout du chemin, tu vas retins-toi en blonde, prends soin de toi, habille-toi mieux, sois sexy. En gros, si t'es là, si je te protège, on va ken et point barre, et je veux que tu sois ma petite poupée, quoi. Et à ce moment-là, enfin, moi je sais que ça me fait vriller, et c'est vrai qu'à ce moment-là, enfin, moi je suis complètement du côté du personnage, et c'est vrai que même si le film nous pose toujours des interrogations, on se dit non, quand même, là c'est un peu hardcore. Et après, on se dit non, elle a raison. En fait, on est toujours. En tout cas, on est de plus en plus de son côté, je trouve. Et le personnage de Ben Affleck, alors qu'encore une fois, lui, il fait rien de terrible. Oui, il la trompe, mais enfin, il a tué personne, quoi. Petit à petit, il devient, mais tête à claque, mais avec des petits riens, quoi. Et je trouve que pour le coup, en termes d'écriture, c'est très subtil. Donc là, encore une fois, c'est plus le scénario, les personnages et l'écriture qui m'intéressent dans ce film que l'aspect cinématographique en lui-même, que la mise en scène. Mais au moins, il y a ça, quoi, que je trouve vraiment assez passionnant.
Mais ce qui est intéressant aussi vis-à-vis de Gone Girl, on parle de la place des femmes chez Fincher, donc t'as le personnage d'Amy, mais c'est l'un des seuls films, je pense, de Fincher où il y a autant de personnages féminins principaux. T'as Amy, qui est donc Rosamund Pike, mais t'as aussi la sœur de Ben Affleck, qui est jouée par Carrie Coon, t'as aussi la policière, l'inspectrice, qui est aussi une femme, et elle reflète aussi, elle reflète toutes, on va dire, des personnalités un peu différentes. Et à côté, en plus, t'as aussi beaucoup, beaucoup de personnages féminins qu'on voit moins, mais qui sont là, présents. T'as la journaliste qui va interroger Ben Affleck. T'as la journaliste, on va dire, un peu moins professionnelle, People, qui fait des émissions totalement à charge, etc. Ouais. T'as la voisine, c'est une femme. T'as la petite amie sur le côté, Amy, qui est jouée par Emily Ratajkowski, qui est aussi une femme de facto. T'as beaucoup, beaucoup de personnages féminins qui reflète vraiment beaucoup, beaucoup de... Enfin, toutes des personnalités différentes de ce que pourrait être une femme dans la société. Et pour revenir au personnage de Amy, ce que je trouve vraiment passionnant, c'est ce que tu disais, c'est que, en fait, le film a été traité de misogyne et de misandrie, mais c'est à mon avis aucun des deux, même s'il penche plus du côté de la misandrie, dans ce sens où littéralement, en fait, elle n'existerait pas, cette violence, sans le patriarcat, la misandrie découle de la misogynie et non l'inverse, la misandrie n'existerait pas si les hommes n'étaient pas misogynes, mais surtout pour en revenir au patriarcat, ce que j'adore sur la fin, c'est à quel point en fait elle prend le contrôle et à quel point la bascule a été effectuée. C'est-à-dire que Ben Affleck se sentait c'est moi le mari, c'est moi qui me soulage en baisant ma meuf juste parce que j'ai envie et qu'elle l'accepte, parce que c'est ma meuf, donc elle l'accepte. Non, c'est pas normal, mais c'est comme ça pour lui. Et il se rend pas compte de sa gestuelle, de sa manière dont il la traite. Lui, il joue aux jeux vidéo pendant qu'elle essaye de trouver du travail. Comme tu disais, ce qui est intéressant aussi dans le film, c'est que c'est sa mère, Amy, qui la pousse en permanence à devenir quelque chose par rapport à son alter ego de fiction, alors que les parents de Ben Affleck ne font jamais rien pour le mettre en avant. C'est juste, vis ta vie, après tout, t'es un homme, donc tu t'en sortiras sans doute, quoi. Alors que le personnage féminin, lui, est obligé de se donner à fond pour avancer dans une société qui de toute façon lui met des barrières en permanence, et donc quitte à avancer elle-même, elle est obligée d'écrire sa propre histoire et de foncer pour reprendre le dessus et reprendre le dessus au point d'elle-même l'enfermer dans ce que lui l'avait enfermé. Et non, tu ne pourras pas t'en sortir, Coco. Maintenant, tu es obligé de rester avec moi parce que sinon, tu auras l'air d'une grosse merde. Et de toute façon, tu l'es. Donc, c'est ainsi, en fait. Et c'est ça que je trouve jouissif, comment il vient retourner le truc hyper cynique où tu te dis, elle, c'est une grosse manipulatrice, horrible. En fait, elle fait croire à des gens qu'elle s'est fait violer, elle fait croire à ça, elle fait croire à des gens que son mari l'a tué. Mais non, en fait, elle le fait pas croire. C'est, en fait, c'est ce qu'elle subit d'une certaine manière.
Oui, c'est ça. Oui.
Mais que. C'est littéralement en fait quelque chose qu'elle a subi mais qu'elle ne peut pas faire comprendre aux gens, et donc comme elle ne peut pas le faire comprendre à la société, elle va le faire comprendre à son mari à son insu, parce que de toute façon c'est la seule manière de s'en sortir. Et c'est ça que je trouve brillant, en fait.
Est-ce que tu retrouves aussi, je pense que c'est l'intérêt qu'il a trouvé à adapter Millennium, parce que le personnage de Lisbeth représente aussi ça, c'est-à-dire cette nécessité de cette violence enfouie que t'as souvent chez Fincher, et qui ressort souvent d'ailleurs dans le début de sa filmo par des personnages masculins, notamment de tueurs en série qui le fascinent. Là, t'as évidemment les personnages masculins qui s'attaquent à des femmes dans Millennium, et donc la revanche, évidemment, vient moins d'ailleurs de Michael, le personnage de Michael Daniel Craig, que du personnage de Lisbeth joué par Rooney Mara. Et t'as ce truc qui est, moi je trouve assez brillant pour le coup chez Fincher là-dedans, c'est que Millennium est un film qui prend son temps, qui a même une structure qui est d'un point de vue narratif complètement aux fraises d'un point de vue des règles classiques, qui commence vraiment à s'attarder en parallèle sur les deux personnages principaux et qui prend le temps de te montrer à quel point elle subit le pire en tant que, justement, femme conditionnée par sa place dans la société patriarcale, en tant que pupille de la nation, qui n'a même pas le contrôle de son propre argent, qui doit rendre des comptes à, évidemment, donc un mec absolument horrible qui la viole pour qu'elle puisse récupérer de la thune, et dont elle se venge d'une manière extrêmement violente, mais parce que c'est nécessaire, en fait, à ce
moment-là. Oui, voilà. Mais c'est ça qui est... C'est ça. Elle est jugée, en plus, au-delà de ça, par son style vestimentaire, alors qu'elle a le droit de s'habiller comme elle veut. On ne ferait... rarement, les hommes sont jugés par rapport à leur style vestimentaire, contrairement aux femmes. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant, et c'est exactement ce que tu dis, c'est que Fincher filme la violence de son viol de manière très, très froide, etc., et vraiment comme quelque chose qu'elle subit. Enfin, normal, elle le subit, hein, mais quelque chose de très froid et dont on ne peut se détacher, dont il veut qu'on voit la violence qu'elle ressent. Et ensuite, d'une manière beaucoup plus jubilatoire, la manière dont elle va se venger parce qu'il le mérite et parce que c'est un gros porc, tout simplement. Parce que non, tu ne pourras pas l'effacer, ton tatouage, les gars, je te regarde. Et c'est trop... Enfin, je sais pas, je trouve ça jubilatoire, la manière dont il renverse souvent les pouvoirs de domination, enfin les rapports de force, merci, par rapport aux personnages, notamment les personnages féminins vis-à-vis des personnages masculins, ce qu'on retrouve beaucoup plus dans la deuxième partie d'ailleurs de sa carrière que dans la première, mais je trouve ça vraiment beau.
Mais là où plein de réalisateurs auraient sans doute, tu vois, eu la lâcheté notamment de fuir, notamment la première séquence avec le tuteur qui lui enlève le sac, qui la touche petit à petit et qui l'incite à se rapprocher, t'as plein de réalisateurs, je pense, qui auraient eu pas le courage, tu vois, d'aller aussi frontalement sur le truc et d'assumer aussi la rythmique de cette scène-là où elle sait d'avance, tu vois, ce qui va se passer. Tu le sais, tu le vois venir, mais l'horreur t'arrive dessus et tu peux pas l'éviter. Et je trouve que Millennium est d'ailleurs assez brillant là-dessus, parce que on traite souvent de la froideur de Fincher là-dessus, mais en fait, je trouve au contraire que ça amène à quelque chose de tellement prenant à ce moment-là, parce que tu es dans l'horreur de la situation avec elle en direct, et c'est ça qui rend la chose absolument terrible à regarder, je trouve.
Alors moi, pour le coup, enfin, il y a quelqu'un qui l'avait représenté avant. Pour le coup, c'est Nils Ardeno-Oplev dans la version suédoise, de 2009. Moi, que personnellement, je préfère, que j'aime vraiment beaucoup, et je trouve que Noomira Pass déchire tellement tout dans le rôle de Lisbeth que, voilà. Enfin, Rooney Mara est excellente, bien sûr, mais bon, j'étais très attachée à la version précédente. Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans tout ce que vous dites, c'est de mettre en comparaison un petit peu la vengeance du personnage de Gone Girl et celle du personnage, du coup, de Lisbeth. Parce que, alors bien sûr, les idées viennent en priorité des auteurs et des autrices que Fincher adapte, mais toujours est-il que maintenant c'est présent dans son cinéma, c'est que Amy dans Gone Girl, l'arme ultime qu'elle utilise contre le personnage de Ben Affleck, c'est l'arme soi-disant féminine par excellence dans l'idée du patriarcat, c'est la grossesse. C'est vraiment, maintenant tu vas être piégé, surtout dans une société américaine où l'idée de filiation et d'héritage et de père en fils et gnagnagnagn, ça compte beaucoup. Voilà, la petite famille parfaite, le rêve américain. Là, c'est vraiment le piège ultime de genre, oh, ça y est, elle est enceinte, je suis coincé pour toujours, je peux absolument plus rien faire. Et au contraire, dans Millennium, c'est des armes masculines qu'elle retourne contre lui. Donc, c'est-à-dire qu'elle lui enfonce je sais pas quoi dans l'arrière-train. Je sais, j'ai un god peut-être bien.
Un balai ou je sais plus.
Oui, je sais plus, mais une sorte de matraque, un truc qu'elle a. Ouais,
c'est, voilà, donc elle répète l'acte sur lui. C'est pareil, Alexandre, tu parlais de son look vestimentaire qui est, voilà, est quelque chose qui la met, elle, en défaut dans le regard des autres. Bah, du coup, elle le tatoue. Donc, en fait, elle est vraiment. Elle prend le miroir et donc c'est pareil, elle va le contraindre à lui donner de l'argent quand elle veut. C'est elle qui reprend l'ascendant sur l'aspect économique. Donc là, au contraire, on est dans une vengeance plus masculine, dans le sens où elle se réapproprie des codes masculins pour s'en prendre à lui. Alors que dans Gone Girl, on était vraiment sur l'idée classique de la féminité jusqu'au bout et montrer à quel point ça peut devenir dangereux, justement, ce cliché de féminité, quoi. Voilà, je trouvais ça intéressant.
C'est très intéressant.
Eh bien, comme d'habitude, on a trop parlé, mais on n'a même pas pu évoquer tous les films de Fincher et ce qui nous intéresse dans son cinéma. Mais bon, bah, il faut bien qu'on conclue cette rue pour retourner bosser. Donc, je vous propose que, comme à l'accoutumée, on s'arrête là et on reprend la semaine prochaine avec toujours plus d'idées. Mais je me dis surtout que ça ferait un super sujet de podcast le jour où Écran Large se décidera d'en faire un. Et si un jour on fait ce podcast, il faudra rappeler aux auditeurs de s'abonner, de le partager, de mettre 5 étoiles sur leur appli d'écoute et de mettre un commentaire. Et on pourra au passage remercier les gens de nous écouter, de nous soutenir, parce que ça reste le plus important.